C'est l'équipe du soir, bonsoir. À deux jours du grand match de Ligue des Champions, Paris-Barça, l'envie était de mettre en lumière cette actualité et de donner la parole à un grand témoin. Dans les années 80, jusqu'en 2002, il a été président du Paris Saint-Germain. Ce soir, celui qui va débouler direction au Parc des Princes, c'est notre président. C'est Pierre Lescure, président de l'équipe du soir. Bonsoir Pierre Lescure.
Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
Ça va Pierre ?
Ça va pas mal.
Alors, il y a les doubles casquettes qui nous intéressent, puisqu'il y a la crise des droits télé.
Ouais.
Et que Canal pourrait revenir dans le jeu, une information Étienne Moati. En tout cas, la Ligue espère éventuellement le retour de Canal. C'est peut-être plus judicieux de le présenter comme ça. Et on aura besoin de vos lumières. Voilà, comment réussir ces droits télé. Oui, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué.
Ce sera plus facile pour Canal que pour la Ligue.
Oui, d'accord. Ok. Je vous présente votre ville-pape, car en tant que président de l'équipe du soir, vous allez peut-être devoir arbitrer quelques anicroches. Yvan Lemay, agent sportif, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Enfin, vous êtes sportif, mais agent de footballeur plutôt.
Plus.
Oui, plus.
Plus que sportif.
Oui, plus que sportif. Il me semble que vous avez déjà croisé, dans une vie antérieure, Pierre Lescure. Alors c'était où, c'était quand tout ça ?
C'est juste il y a 25 ans.
Oui, encore
plus. Hier, avant-hier.
Oui, d'accord.
Quand je travaillais pour l'Olympique de Marseille, on avait créé, sous les ordres de Jean-Michel Roussier, Robert Le Dreyfus, la chaîne OMTV, la première chaîne de club en France. Mmh. Et Pierre était le boss de tout ça, évidemment. Mmh. Et on avait fait quelque chose de très, très sexy, parce que une chaîne de télé, ça n'existait pas, avec le Real Madrid qu'il avait. Et puis après, ça s'est démultiplié dans tous les clubs européens. C'était une très, très belle aventure.
Jean-Michel, c'était bien.
Jean-Michel Roussier, c'est celui qui...
Qui est président du Havre aujourd'hui.
Oui, d'accord, c'est ça. Sur les compos de Lucien Riquet, Paris plus le championnat, tout ça. C'est le même monsieur, d'accord. Très bien. Ok. Attention, il connaît tout sur tout, on l'appelle Steve Austin ici, mais bon, il répond au nom de Vincent Duluc. Bonsoir Vincent.
Salut Mémé.
Je vais vous faire bosser si vous avez la culture Canal.
Oui.
On est en novembre 84, Canal vient d'être lancé depuis 4-5 jours. Le premier match diffusé
Ça me dit quelque chose, là c'est facile, c'est Nantes-Monaco.
Nantes-Monaco ? C'est pas Monaco, Nantes, hein, Nantes-Monaco.
J'étais déjà abonné.
Ok. Ah oui, j'étais déjà, oui.
Mais bien sûr.
Ouais. Vos parents peut-être, non ? Vous-même.
Mes parents aussi, mais j'étais déjà abonné.
Ah d'accord, vous avez un certain âge, d'accord.
Oui, j'ai un certain âge.
Excusez-moi,
j'étais monsieur. Majeur, j'avais le droit.
Non, je vais d'accord. La blonde de l'équipe du soir déboule sur le plateau, en tenue de Jackie Kennedy. Bonsoir ma chère Karine.
Bonsoir Mémé, bonsoir Président.
Ça va ? Vous êtes ravi de rencontrer Pierre Lescure ?
Oui.
Vous êtes
alors, c'est pas
Canal.
Forcément pour le foot, moi. Mmh. Mmh. C'est aussi beaucoup parce que je le regarde tous les soirs en rediffusion.
Mmh. D'accord.
C'est à vous. Et pour Beaugest, qui est une émission que j'aime beaucoup.
Ok.
Merci. Je regarde également la nuit. Et ce sont des très beaux rendez-vous.
L'après-midi, on a enregistré Viggo Mortensen.
Magnifique.
Au musée du jeu de paume. Une merveille.
Et il parle un français parfait, lui.
Ah, très, très bien.
Ah oui. Mmh.
Il a une voix toute douce, son beau regard bleu. Non, vachement bien.
Et puis, parfois, dans les canals, on était un peu des troubadours. Nous, notre troubadour ce soir, c'est Hervé Penaud, alias Patrick Juvet.
Mais qu'est-ce que je suis content Pierre Lescure. On se connaît depuis longtemps, il m'a vu en concert souvent, j'ai vu le boss. Hein.
Voilà.
C'est un hommage.
Merci.
Bon,
c'est
un hommage.
Merci pour l'hommage.
Eh ben, c'est un grand plaisir aussi de rencontrer Pierre Lescure, parce que la nuit, je regarde toutes ces émissions aussi.
D'accord.
Avec Karine.
Il y a des guestmen, il y a des villes flatteurs dans votre ville-peuple, ne vous y trompez pas. Virginie Saint-Cylie dans la place pour les infos, les compléments d'information. Virginie, bonsoir.
Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde.
Ça va ?
Un peu malade, ça va, mais...
Qu'est-ce qui se passe ?
La voix, la gorge, un petit peu mal, le nez bouché, bon. Mais je suis contente d'être là.
Ok, merci beaucoup. Sur le site L'Équipe, si vous avez des questions à poser à Pierre Lescure, vous y allez, tac.
Et puis moi, je surveille, je récupère les meilleures questions et puis on les posera en direct.
Ok. PSG-Barça, c'est dans deux jours au Parc des Princes. Si je vous dis comme ça, PSG-Barça, vous me répondez quoi, comme ça, spontanément, automatiquement, ça vous rappelle quel souvenir, Pierre ?
Ben comme le Barça est sans doute l'équipe en dehors des équipes françaises que j'ai le plus aimé dans ma vie, du temps de Cruyff notamment, mais tous les autres ensuite, et encore récemment, les Iniesta, Xabi et les autres, c'est que des souvenirs qui couvrent au moins 3-4 générations, et c'est toujours beau, et remontada ou pas remontada, c'est toujours un match explosif et beau.
Ah, je crois que vous allez me parler de 95, moi, avec le PSG de Louis.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas un souvenir, on va dire, particulier.
Non, j'ai pas un souvenir particulier, c'était des grands... Si on parle de l'Espagne, ce sera plus le Real, évidemment, mais évidemment, du temps de Louis, c'était bien aussi.
Le PSG-Barça, pour nos jeunes téléspectateurs, ça nous renvoie à la remontada de 2017.
Bah oui.
Est-ce que vous avez un souvenir de la remontada? Vous étiez où? C'était quand? C'était
non, voilà, non, j'étais, c'était non, il y avait, je vais vous dire, j'étais
un sentiment de sidération.
J'étais avec, à l'époque, Jean-Pierre Bacri, parce qu'on regardait tous les matchs ensemble avec deux, trois potes. Et ben, c'est même pas de la sidération, c'est qu'on pense que c'est une émission bidon, qu'il se passe un truc, que c'est pas possible, que c'est dans le laps de temps imparti, ça n'est pas possible. Eh ben si.
Oui, bah oui, c'est malheureusement possible. Et Pierre, on vous accueille. On va juste faire un petit CV, tranquillement, parce que vous avez... Oui.
Non, faites-le court, parce que sinon, on a...
Petit CV, va se terminer.
Bon, très rapidement, regardez. Alors, vous êtes un enfant de la radio, hein, vous avez commencé au 105 à RTL, passé à RMC, première expérience télé à l'ORTF, c'était le Canal 2 entre 112 et 114, Europe 1, boum, on revient à la radio, deuxième expérience télé, c'est Antenne 2. France 2, donc Antenne 2, où vous avez créé Les Enfants du Rock. Et puis il y a le passage à Canal en 83, donc un an évidemment avec le début de le lancement de la chaîne. Lorsque Canal achète le Paris Saint-Germain, vous devenez le président du Paris Saint-Germain, Michel Delisot étant le président, on va dire...
Le vrai patron.
Oui, voilà, délégué. Et puis, y a-t-il une vie après Canal? Alors, on n'a pas tout mis, hein. voilà, parce que, bon, il faut que ça tienne, et puis voilà. Moi, ce que je retiens, c'est président du Festival de Cannes, 2014-2022, et puis depuis 2014, donc France 5, c'est à vous que regarde donc quotidiennement, mais en replay, Karine Galli.
Non, il est rediffusé la nuit.
Oui, d'accord.
Voilà. Okay. Quand on rentre à 1h du matin de chez vous, mémé, on rentre à la maison, et après, on met France 5, et il y a la rediffusion.
Quand vous reconnaissez dans la rue, on vous parle de quoi? Du PSG ou de Canal?
Les deux. Quand je suis dans la rue, les gens m'arrêtent essentiellement pour Canal. Et c'est toujours assez chaleureux. Parce que ou leurs parents leur en ont parlé, ou ils sont pas tout jeunes comme moi, et d'un seul coup, on a des souvenirs communs. C'est toujours gratifiant de se dire qu'on a accompagné des bons moments, parce que les gens ont la banane, ils me citent des noms, des trucs, des machins, que ce soit en sport, en cinéma ou en déconnade. Et puis, quand je suis dans le taxi... ce que je fais souvent, parce que j'en ai marre de conduire à cause des vélos, et ben on parle du PSG, et le mec sait tout, et il m'explique, etc.
Est-ce qu'il se souvient que vous n'étiez pas président du PSG?
Ah oui, oui.
Ouais, d'accord, ok.
Ah, et puisque vous êtes là.
Ah, d'accord, ok. Essayez. Okay. On va parler de droits télé avec Canal contre les droits télé, ou avec les droits télé. Une information de la hyène de l'équipe du soir, Étienne Moati, sur le site L'Équipe. Le nom de Canal Plus refait surface pour les prochains droits télé de notre championnat, la période donc 2024 jusqu'en 2029. Enfin, 5 mois du début du championnat. Il n'y a toujours pas de diffuseur. Situation compliquée car le ticket imaginé par Vincent Labrune pour les prochains droits de notre championnat est au point mort. Ce ticket imaginé était Bein associé à DAZN qui a du plomb dans l'aile. Du coup, le retour de Canal+, le diffuseur historique de la Ligue 1, reprend un peu d'épaisseur. C'est en tout cas la volonté, et voilà, c'est la volonté de la Ligue professionnelle de football de faire revenir Canal à la table des négociations. Alors, pour rappel, Canal a refusé de participer en septembre dernier, donc à l'enchère. Et puis après cet échec, Canal a en plus communiqué en février dernier qu'elle ne participerait pas aux discussions de gré à gré, c'est-à-dire la vente comme ça au lot, au match, ou à ce qui les intéresse. Alors, Canal Plus diffusant de la Ligue 1 la saison prochaine, est-ce que c'est mission impossible? Dans votre ville-peuple, ils ont tous dit non. Vous avez tous dit non?
Ah oui, tout à fait.
Vous avez tous dit non. On peut commencer l'émission, mes petits.
Oui, oui, non, on a tous dit non.
Je ne sais pas. Le président vous écoute. Je vous laisse venir, mes petits. Et on vous écoute avec le président.
Pourquoi il ne reviendrait pas? Il y a eu des histoires d'ego, des histoires politiques, des histoires de tribunaux. Mais je pense... Tu es Canal, moins Canal aujourd'hui, mais je pense que Canal a encore besoin du football. En tout cas, du meilleur football. Peut-être pas l'intégralité. Mais je pense que Canal a besoin aujourd'hui de la Ligue 1. La Ligue 1 a besoin de Canal. Et pour la Ligue 1, il vaut mieux discuter avec plusieurs opérateurs, évidemment. Après, ma question pour toi ou pour vous.
On va voir la petite question. Vous avez tous dit non. Moi, raison. Donc là, c'est le meilleur de la Ligue 1, enfin le meilleur du football. La Ligue 1, c'est sur Canal.
Mais moi, j'ai dit non pour des raisons basiques. C'est-à-dire, c'est parce que c'est du foot et parce que c'est de la télé et parce que les amis d'hier, les ennemis de demain, etc. Il y a toujours un moment où ça se retrouve. Mais sur le fond, je trouve que Canal a quand même mis beaucoup d'argent sur la Ligue des Champions, beaucoup d'argent sur le championnat d'Angleterre, beaucoup d'argent sur la F1, etc. Déjà sur les droits. Et que...
Et là, vous êtes rationnel, là.
Oui,
et là, vous me répondez oui, là.
Non, mais je trouve que Canal dépend moins de la Ligue 1 que d'autres, donc c'est ma petite réserve. Mais moi, en tant que téléspectateur, tous les jours, j'ai envie d'avoir un seul abonnement qui me couvre tout et que et j'ai envie que la Ligue 1 soit visible. La réalité, c'est que le dimanche soir, quand c'est diffusé sur Prime Video, qui n'est pas une chaîne de foot, qui est seulement un streaming, on ne connaît pas les chiffres. Il n'y a jamais eu un chiffre qui a été communiqué. Et moi, je pense que notre intérêt collectif à tous, c'est que la Ligue 1 soit visible et elle ne le serait plus sur Canal.
Choc de simplification.
Ah bah oui.
Ok.
Moi, ce n'est pas de la simplification. C'est qu'à un moment, quand vous êtes maître du jeu, ça change radicalement les choses. Jusqu'à présent, ils ont eu l'impression de se faire enfler sur ce qui s'est passé récemment et puis payer les matchs comme ça très, 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 très cher. Là, aujourd'hui, c'est différent. Vous avez la Ligue qui est quasiment, je ne vais pas dire à plat ventre, mais enfin, pas loin.
Au moins genou.
Alors ça change tout. Dans le rapport de force, c'est vous qui êtes les maîtres du jeu. Et d'un seul coup, effectivement, d'un moment où vous pouviez dire, de toute façon, on ne rentre pas dans ces négociations, maintenant, on ne s'occupe plus de la Ligue 1, du côté de Canal, mais là, vous êtes maître. Donc ça change tout. Et à partir du moment où le rapport de force est en votre faveur, eh ben, vous venez à la table des négociations avec un peu plus d'arguments.
Ok.
Oui, mais ça revient à
c'est pareil.
Ce que dit.
Vous avez copié sur votre voisin.
Un petit peu, je crois.
Et puis, en regardant l'émission. Je pense que tout simplement pour le foot, ça serait bien que Canal revienne. Ils ont le savoir-faire. Ils sont exceptionnels dans la façon de créer une histoire, de nous rendre ce championnat passionnant alors qu'il est de moins en moins. On l'a dit, là, on est sur un ticket Bein, DAZN, c'est quand même pas exceptionnel. DAZN, ça sera encore un nouveau qui débarquerait pour une, deux, trois saisons maximum. Si Bein a un savoir-faire, on est d'accord, mais ça serait bien en fait le ticket Bein Canal qu'on a connu il y a quelques années. Et de toute façon, Bein est proposé par Canal avec les bouquets. Donc ça reviendrait à ce que Vincent et quasiment tout le monde espère, c'est-à-dire avoir un abonnement qui couvre la majorité des sports qu'on a envie de voir.
Synthèse, président Lescure. Canal doit-il y aller ?
Canal pour ses raisons, y aller, hein, pour les raisons. Canal va y aller, à mon avis, mais il ira à son prix. Et ça va être tout le problème de Vincent Labrune et de ses mandants. C'est que Maxime Saada est au-dessus de lui. Mmh. Ils n'ont absolument pas intérêt à mettre un centime de plus que ce que ça vaut vraiment pour eux. Moi, je suis abonné à Canal parce que j'ai tout le reste du sport. Mercredi, puisqu'on parle de PSG-Barcelone, ce sera sur Canal. Le rugby est traité de façon magnifique. La boxe est revenue. La F1, n'en parlons pas. La moto, ils la font à merveille. Je suis pas golfeur, mais le golf y est aussi. Bref, il y a à peu près tout. J'ai pas besoin de la Ligue 1. Plus grave...
Ah, vous n'avez pas besoin de la Ligue 1 ?
Non, j'ai pas besoin. Je suis abonné sans la Ligue 1. Sans la moindre hésitation, même quand c'est le jour de mon abonnement, le 4 novembre, parce que je m'étais abonné le 4 novembre, je n'ai même pas, j'ai pas la moindre hésitation. J'ajoute à ça que, à cause des plateformes, qui se sont baladées entre celles qui ont merdé tout de suite, Mediapro ou Amazon, parce qu'on n'a pas les chiffres, parce qu'on sait pas, parce que c'est pas des chaînes, la Ligue 1, c'est plus une histoire. Comme vous le disiez très bien. Donc il va falloir réécrire l'histoire, parce que ça n'apporte rien en image à Canal. Les abonnés sont contents comme ça. Donc ils vont vraiment imposer leur prix, tranquillement. On a besoin d'eux, on a tellement besoin d'eux qu'on sera évidemment très loin du milliard, mais on va être... J'ai peur qu'on soit sous la ligne de flottaison si on y va à leur prix.
Mais, vous voulez dire 500, 600, c'est quoi ?
Oui, ça va faire 550.
Quelque chose comme ça.
C'était la question combien ça vaut ?
L'Italie est à 900 000. On parle que des droits nationaux, parce qu'ils se vendent après à l'étranger pour les différents championnats. L'Italie est à 900 millions. La Bundesliga est à 1,2 milliard. 1,3 milliard pour la Liga. 2 milliards pour les Anglais, qui vendent d'ailleurs 2 milliards à l'étranger. Aujourd'hui, de ces chiffres-là, 400 à 500, 600, sont très bas. Le prix aujourd'hui, j'entends toujours les médias français dire la Serie A ne vaut plus rien, etc. Si la Serie A a vendu ses droits à 900 millions, pourquoi les Français n'y arriveraient pas ? Ils ont les mêmes problèmes d'opérateurs, ils ont les mêmes problèmes d'IPTV, ils ont les mêmes soucis. Et la valeur du produit Serie A est bien supérieure aujourd'hui en termes de valeur.
Tout cas, Canal ne mettra pas 900. Enfin, je ne peux pas l'imaginer.
Mmh. Non, c'est pas possible. Et sur une association Canal
Bein.
Tu es abonné sur Canal. Et donc, tu as les autres plateformes, certainement. Donc, tu payes plusieurs abonnements. Tu ne pourrais pas payer plus cher un abonnement Canal qui prendrait la Formule 1 ? La Ligue 1, pardon.
Mais déjà, j'ai un... Vous vous rendez compte que j'ai déjà, avec le bouquet Canal, j'ai à peu près tout. J'ai déjà tout en cinéma, avec les autres distributions qu'ils font. J'ai déjà Bein.
Mais tu reprends un abonnement à côté pour voir les matchs de Ligue 1.
Oui, mais...
Si cet abonnement-là, il est dans l'offre Canal, et que le prix de l'abonnement Canal est un peu plus cher, tout le monde s'y retrouve. La production est bonne sur Canal, ça va, tout le monde est content de ce qu'ils font. Et c'est historique. Et ça permettrait, en remontant un petit peu le prix, de rassembler sur une même
Pierre,
chaîne.
Non, Pierre, vous accrochez
le, mais le problème, non, mais il y a un problème. Moi, je pense que le départ, ça paraît à rien, mais le départ de Kylian Mbappé, mais ça change radicalement la vision de l'extérieur du championnat de France. Vous aviez une star qui était Kylian Mbappé, qui peut encore attirer. Il peut attirer du public, notamment à l'étranger. On se dit, on va regarder les matchs de Kylian Mbappé. Pour pas mal bouger quand même dans le monde et en Afrique, il y a vraiment une appétence sur le Paris Saint-Germain parce qu'il y a Kylian Mbappé. À partir du moment où vous enlevez Kylian Mbappé, vous vendez plus du tout.
International.
Non, mais même national, parce que d'une certaine manière, quand t'es Canal+, s'il n'y a pas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est plus tout à fait le même Paris Saint-Germain. Faut pas se mentir. Quand il y avait Messi, quand il y avait Neymar, c'était aussi des appels.
La réalité, et on le voit là cette année pour le coup, c'est que l'affluence dans les stades, elle est plutôt bonne, et que le supporter de Brest, il est content de voir Brest à la télé. Le supporter de Lorient, il voit Lorient. Et donc finalement, c'est aussi un amour de ton petit village ou de ton petit club. Et évidemment, Kylian Mbappé, c'est mieux. Mais les gens, ils vont quand même continuer à regarder le championnat. Mais au niveau national, oui, c'est à l'international que c'est invendable.
J'aime bien que vous engueulez, mais ce serait bien aussi d'aller voir le patron. Comment on vend un championnat ? Est-ce que le fait qu'il y ait Kylian, pour un vendeur, vous étiez patron de Canal, de mettre en valeur une ligue via une personnalité, via des stars, c'est quelque chose que vous avez pu quantifier, ça ? Voilà, à l'époque, il y avait Rai, à l'époque, il y avait d'autres joueurs. J'ai l'impression
que
moins...
On ne peut pas quantifier ça, mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu les grands PSG Marseille et qu'il y avait vraiment de la vedette de l'époque et du beau jeu et des enjeux, c'était vraiment un truc qui valait du pognon. Là, j'ai peur que le seul intérêt que pourrait apporter le départ de Mbappé, c'est qu'il n'y ait pas 13 points entre le premier et le second. Que ça devienne un peu plus attractif, que d'un seul coup, il y ait un suspense et que jusqu'à au moins l'avant-dernière journée, tout le monde serre les fesses et soit excité et se précipite sur la chaîne qui diffuse.
En fait, ce qu'on achète, c'est pas une star. C'est pas une star qu'on achète, c'est le feuilleton.
Oui.
Et en fait, le feuilleton, il dépend pas que de la star. Et là, le feuilleton, il est un peu faible actuellement.
Bah, étant donné que.
Mais
la première journée de championnat, on sait que c'est pas qui va
l'avantage du feuilleton.
C'est ton édito de ce matin.
Oui. Il aime bien se répéter.
Mais en même temps, en Allemagne, le championnat est réglé depuis un mois. En Italie, c'est réglé avec l'Inter depuis deux mois. Il y a que l'Angleterre.
Mais Yvan, l'Allemagne, c'est réglé cette année. Le Bayern, justement, c'est la fin d'une hégémonie du Bayern.
Ils viennent d'être champions 12 fois de suite, c'est ça ?
Non, mais il y a quand même une différence. Ah ouais. C'est qu'avant, ça, c'est un argument que je pouvais entendre, le premier. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on s'intéresse au championnat entre le 2, 3, 4. Qui va être en Ligue des Champions ? Paris, ça y est, on en a fait notre affaire. Et puis peut-être même sans Mbappé, ils auront quand même 13 points d'avance. Maintenant, le championnat, il est lié pratiquement à des places secondaires. Pourquoi ? Parce que ça reste la Ligue des Champions, l'Europa League, etc., voire la descente. Donc ouais, en fait, de ce côté-là,
vous c'est... Vous nous vendez Drive sur Survive, la première saison sur Netflix, avec du fond gris. Non mais passionnant ! Passionnant, mais c'est...
Non, mais c'est pour dire que moi, je ne pense pas que ce soit un argument, le fait de leader en championnat. Ça n'a pas empêché Paris Saint-Germain d'être battu par Montpellier, ça n'a pas empêché Paris Saint-Germain d'être battu par...
Non, mais ça empêche le feuilleton...
Exceptionnellement.
Et Monaco.
Non, mais ça empêche le feuilleton de prendre de l'ampleur, quand même, malgré tout. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre parlait des grands PSG Marseille, on ne savait pas qui allait être champion entre les deux. Mm. En 1993,
tu l'avais écrit
le match du titre est sur la fin, pas du tout, le match du titre est à la fin, et ça change tout.
On en reparlera de ce classico, on aura quelques questions à poser à notre président d'honneur, Pierre Lescure. Virginie, vous êtes intéressée donc à l'éventuel. Donc l'information, c'est Canal, donc en tout cas la Ligue attend un retour de Canal à la table des négociations. Vous êtes intéressée, on va dire, au droit actuel de Canal+, au droit sportif actuel. Voilà.
On s'est penché dessus avec Lucas Blanchard. Ouais. Certains montants n'ont pas été communiqués, ceux des Coupes d'Europe notamment et du Golf, mais on en a retrouvé pas mal. Regardez, ils ont la première ligue jusqu'en 2028 pour plus de 100 millions d'euros, le rugby jusqu'en 2027, donc top 14 plus Pro D2 pour 121 millions, plus de 60 millions pour les sports mécaniques, un peu plus de 5 millions pour la D1 Arkema, ce qui nous fait, sans les chiffres qu'on ne connaît pas, plus de 286 millions de droits TV.
C'est à l'ancien patron de Canal, quand on a des sommes engagées comme ça, et c'est par saison, voilà, de pouvoir décaisser et de pouvoir acheter de la Ligue 1, s'asseoir à la table des négociations. Est-ce que c'est mécaniquement pas possible ou difficile ?
Non, c'est possible parce que Canal est d'abord, un, extrêmement bien géré, que Saada connaisse à peu près son budget des trois prochaines années. Les droits que vous indiquiez, Virginie, ils ne vont pas augmenter, ils ne vont pas se multiplier. Donc il peut faire des prévisions. Et seulement, ça va être un gros investissement. Je pense que pour pas trop chambouler leur programme, ils vont être amenés à miser et à développer leur chaîne 100% foot, une des chaînes qu'ils ont déjà dédiées au football. Donc l'investissement, au-delà de la somme qui reviendra à la Ligue, s'ils devaient y aller et l'emporter, l'investissement, il sera également accompagné d'un nouvel investissement de traitement, de mise en onde et de programmation. Donc, ils peuvent le faire, mais ce sera un vrai choix stratégique qui veut dire aussi que Canal, avec le feu vert de son actionnaire principal, décide de redevenir monopolistique.
Exact.
Parce que là, ils seront vraiment monopolistiques. Ouais. C'est un vrai choix stratégique, alors qu'il y a quelques rendez-vous réglementaires qui approchent. Ils sont incontournables sur le cinéma, ils deviennent plus qu'incontournables sur le football. Ça peut être un argument, Vincent.
Mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont engagés vis-à-vis du rugby, par exemple, pour la case en prime time le dimanche soir. En même temps.
T'as vachement raison. C'est pour ça que je parlais de l'autre chaîne.
Et à contrario, ils ont beaucoup affaibli le CFC, qui était une émission phare avec la Ligue 1 et qui est maintenant un peu un ersatz du CFC que c'était par rapport et de l'influence qu'il pouvait avoir et de ses audiences, qui étaient supérieures à 1 million à l'époque.
Bien sûr.
Donc il faut vraiment se repositionner. Voilà. Et je pense qu'en fait, quand même, l'explication à ce que disait Yvan, pourquoi en France le prix est aussi bas, c'est parce que depuis 10 ans, les dirigeants du football français, on va dire collectivement, on ne va pas séparer ceux de la Ligue, ceux des clubs qui sont souvent les mêmes, ont quand même fait un nombre de mauvais choix, mais absolument sidérant. Mais à chaque fois qu'il y avait un carrefour qu'il fallait aller à droite, ils sont allés à gauche. Donc il y a un moment, ça se paye.
Je vous ai entendu pouffer ou abonder. Vous avez fait pouf, Pierre.
Bah oui.
Vous abondez.
Oui, j'abonde à 101%.
On va donner la parole à quelqu'un qui était à votre place il y a quelques mois ça. C'est Christophe Boucher, qui a été président délégué de l'Olympique de Marseille, qui a écrit un bouquin sur les droits télé. Et vous allez réécouter un passage, c'est le point de fracture entre la Ligue et Canal+. Ça date pas de l'aventure de Mediapro. Non, non, ça date depuis 20 ans, en 2024. Écoutez ce qu'il nous racontait, c'était en 2004.
À l'époque, en 2004, Canal+ veut avoir les monopoles. Il ne faut pas oublier qu'en 2004, il y a deux diffuseurs, il y a deux plateformes.
TPS ?
Il y a TPS Canal. Et Canal. Et Canal en a marre. Et la stratégie de Bertrand Meilleux, c'est de tuer TPS. Bon. Et il dit, je vais tuer TPS, donc on attendait, il y avait 350 à l'époque, on attendait 500, tout le monde disait, mais vous êtes complètement fou, ça ne marchera jamais, etc. Et on a 600. Pourquoi ? Parce que Bertrand Meilleux, il veut tuer TPS. Mais il sait qu'il a mis beaucoup, beaucoup, et beaucoup trop d'argent sur la table. Donc il dit tout de suite à la LFP le lendemain, à la Ligue, il leur dit tout de suite, je vous préviens, c'est la dernière fois.
Ouais,
La Ligue, elle a compris le message. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que la prochaine fois, je vous achèterai au prix que je voudrais. Mmh. Et donc, à partir de là, eh ben, évidemment, tout le monde a défendu son bistec.
Ouais. Est-ce que c'est le moment où ça bascule, les rapports entre Canal et la Ligue ?
Disons que ça rompt un rapport qui était toujours intelligent, où avec les prédécesseurs du patron de la Ligue à l'époque et nous, il y avait toujours une discussion où chacun disait sa vérité, la vérité de son business. On échangeait même des chiffres, parce qu'on était incontournable, Canal, avant l'arrivée de TPS, qui était venu pour nous faire suer et augmenter sa valeur. Et un jour, Patrick Lelay espérait, qui était le patron de TF1 à l'époque, espérait qu'il allait nous faire cracher au maximum au bassinet. Mais on exposait nos chiffres. Et il savait qu'il y avait une fidélité de l'ensemble des passionnés de foot à Canal. Donc il savait notre intérêt, on savait le leur. Et il y avait des discussions. C'était pas de la connivence. C'était des discussions objectives. Parce qu'on n'est pas non plus un énorme marché, la France. Donc il fallait avoir des discussions objectives. Là, ils sont rentrés dans des paris. Le pari de Meilleux, le pari de la Ligue. Et quand Meilleux, il a tellement peur de son propre pari qu'il dit on ne m'y reprendra plus. Après, ça va aller de difficulté en difficulté entre les deux.
Dans le papier du jour d'Étienne Moati, les grands matchs sur le théâtre de rencontres entre beIN Sport et la Ligue, entre Vincent Labrune, Nasser Al-Khalifi ou Youssef El Obadi, le directeur général qu'on connaît moins du beIN Sport, c'était la même chose à votre époque. Il y avait, pas de collusion, mais un rapport, on va dire, franc, un rapport net à travers les matchs, de parler des intérêts de Canal et que la personne qui représente la Ligue puisse...
On ne parlait pas beaucoup des négociations entre deux appels d'offres.
Non.
Franchement, ce n'était pas un truc... D'abord parce que tout était quand même assez transparent. Vous voyez, il n'y avait pas cette incertitude qui a commencé en 2004, ouais. comme le rappelait Christophe. Mmh. On n'avait pas à discuter. On était en position de monopole. Mmh. Donc, de mon temps, ce n'était pas le sujet. Et puis, en plus, le nombre d'abonnés était connu. On transmettait nos audiences. Donc, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'infos à planquer ou à cacher ou sur lesquelles jouer.
Virginie, vous avez fait une petite aussi information sur l'histoire des droits du championnat de France de 84 à nos jours.
Ça démarre donc en 1984. Ça vous plaît, ça. Regardez, Canal Plus acquiert les droits en 1984 jusqu'à 88 pour une bouchée de pain, 800 000 euros. Ça passe à 5 millions pour la période entre 88 et 92. Ça s'envole à 70 millions de 92 à 98. 106 millions ensuite pour la saison 98-99. Entre 99 et 2001, c'est toujours Canal seul qui paye les droits à 175 millions. Le groupe s'associe ensuite à TPS jusqu'en 2005. Les droits coûteront 278 millions de 2001 à 2004, puis 375 millions pour 2004-2005. On double presque entre 2005 et 2008 avec 600 millions, diffuseur Canal+. Il s'associe à Orange Sport pour la période 2008-2012 au prix de 668 millions. 607 millions ensuite pour Canal et Bein Sport entre 2012 et 2016, puis 726 millions entre 2016 et 2020. Et enfin, après le fiasco Media Pro, les droits ont coûté 663 millions à Bein, Canal et Amazon jusqu'à juin 2024.
Ouais, c'est par saison à chaque fois, voilà, au niveau des millions. Mmh. La petite histoire, c'est en 84, j'ai lu ça, mais vous allez me dire si je me trompe, le match coûtait 250 000 francs, donc c'est en conversion 38 000 euros.
Ouais. Mais oui, puisque il n'y avait pas eu de match, je crois, de championnat depuis 4 ou 5 ans à cette époque-là sur les chaînes de télé.
Aussi.
Et Jean-Claude Darmon, qui était venu nous voir, parce que Bernard Brochand, l'un des créateurs historiques
du Paris Saint-Germain,
et qui était à l'agence Havas à l'époque, notre principal actionnaire, avait dit, mais pourquoi on n'essaierait pas le football, etc. Donc Jean-Claude Darmon a eu un mal fou à convaincre Sadoul, le patron de la Ligue, le Zéran, et son accent incomparable.
Sévenol,
il a eu un mal fou de le convaincre qu'il fallait essayer. Finalement, il s'est laissé faire. Mais pour lui, ça pouvait pas marcher. Et il va mieux pas que ça marche. Parce que si ça marchait...
Tu allais vider les stades ?
On allait vider les stades.
C'est une génération qui a vécu sous l'occultation, si on peut le formuler comme absolument. Ça. C'est-à-dire dans les années 70, on nous prévenait à 20h30 à la fin du journal pour savoir si le match de 20h45 allait être diffusé sur toute la France ou pas sur notre région. Moi qui ai vécu dans l'Ain, Bourg-en-Bresse, le nombre de matchs de Saint-Etienne
qui étaient
privés et qu'il fallait prendre la téléportative pour passer du Pila jusqu'au col de la Faucille, c'était pas facile.
En 84, je me souviens que Giroud disait il faut absolument occulter l'ensemble de la région là où le match a lieu.
Non mais c'est vrai, quand est arrivé Canal, pour nous ça a été un truc incroyable. Moi, j'ai le souvenir, de toute façon, moi, quand je vais prendre mon abonnement Canal, c'est en juillet de cette année-là. Donc, ça commence en novembre. Moi, c'était en juillet. Je me souviens, au 4 temps, j'étais allé là-bas. Parce qu'en plus, on parlait de la boxe. Moi, je suis fan de boxe. On parlait du foot australien. On avait dit, on va créer un truc, le foot australien. Finalement, ça n'a jamais pris. Mais on se dit, on va voir des matchs de foot. Parce qu'on parlait de joueurs qu'on voyait quasiment jamais. Mmh. C'est ça, il faut bien se rendre compte de ça.
Mes amis, on parle. Et tout à l'heure, on a sorti des chiffres sur Canal+, sur leur catalogue de droits télé. Combien ça leur coûte par saison, actuellement. Il y avait des blancs dans l'infographie.
Oui, notamment pour les Coupes d'Europe. Et on nous s'élève à 480 millions d'euros à partir de la saison prochaine.
Pour 5 ans ?
480 millions jusqu'en 2027.
Voilà. Là, c'est où la précision, là ? C'est les Coupes d'Europe. La deuxième ligne, 480 millions en plus. Donc, ça fait 766.
Par an ?
Par an, ouais, exactement.
C'est beaucoup d'argent, quand même.
Ah ouais. Bah, vous qui étiez aux manettes à un moment sur ça, est-ce qu'ils ont les moyens de s'asseoir à la table pour, on va dire, contenter la Ligue ?
Ils ont les moyens. Sauf que ils n'auront pas le feu vert, je pense, de leur à la fois de leur conscience et de leur actionnaire principal de mettre n'importe quoi alors qu'ils n'en ont pas fondamentalement besoin. Mmh. Donc, il y aura un choix stratégique. Mmh. S'ils arrivent à convaincre Vincent Bolloré et l'ensemble du conseil d'administration que décidément être de nouveau en position de monopole, c'est politiquement au sens de la politique audiovisuelle et de la politique de l'attraction de l'entertainment et de la position de Canal à tous égards, ça a plein d'acceptions, hein. C'est pas que le sport, c'est Canal, maître du financement du cinéma, maître du financement du sport dans l'Hexagone. C'est une position, c'est plus qu'incontournable. Donc dans la tête de Bolloré, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense qu'il va se poser la question et que c'est là-dessus que Vincent Labrune peut rêver. C'est que Bolloré peut se dire qu'il va atteindre une espèce d'apogée et que ça vaut peut-être le coup en ce moment par rapport à l'ensemble de tout ce qu'il a en tête.
La tentation peut-être de Vincent Bolloré, donc voulu, c'est un souhait de notre grand témoin, Pierre Lescure.
Non, j'ai dit que c'était la seule chance de Vincent, Labrune.
Et quid de Nicolas Sarkozy, un amoureux du Paris Saint-Germain, l'ex-président de la République, également intime de Vincent Bolloré pour les négociations comme ça, parce que souvent dans les négociations, il y a l'arrivée de personnes politiques qui viennent pour essayer d'arranger les bidons, on va dire. Est-ce qu'il a un rôle à jouer, notre ancien président ?
Je pense que oui, il peut avoir un rôle de conseiller à l'évidence, mais enfin, il est quand même plus PSG qu'il n'est Ligue. Donc, il peut avoir un rôle. Je suis sûr que Vincent Bolloré lui demandera son avis. Mais je ne sais pas d'ailleurs quel serait l'avis de Nicolas Sarkozy. Franchement, j'en sais rien.
D'arranger les bidons, peut-être. Ouais.
Je pourrais raconter une anecdote qui revient d'un seul coup quand vous dites un politique qui se met. Il y avait un ministre, dont j'oublie le nom, mais je pense qu'on s'en fiche, qui était ministre du commerce extérieur sous Chirac. Ouais. Quand Chirac est allé en Amérique du Sud. Et j'avais été invité comme chef d'entreprise, et l'invité vedette, c'était Michel Platini. Et donc, on est dans l'avion et on cause de foot ensemble. À l'époque, il y a Dely Valdés, qui est avant-centre du PSG, le Panaméen. L'homme politique en question arrive près de nous et dit « Ah, puisque je vous entends parler foot, je voulais vous dire, je ne suis pas sûr que votre Dely Valdés soit tout à fait... » Il était élu parisien, donc il pensait qu'il pouvait s'intéresser au PSG. « Je ne suis pas sûr que votre Dely Valdés soit tout à fait l'avant-centre qu'un club comme celui de la capitale peut attendre. » Et là, la réponse de Platini est partie à toute allure. Il a dit, eh ben, l'autre jour, je discutais avec Dely Valdés qui me disait, je suis pas sûr que ce monsieur machin soit vraiment le ministre du commerce extérieur.
Donc, il est reparti après. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tiens, vendredi, Antoine Comboiré, l'un de vos anciens joueurs, maintenant qui est coach à Nantes, a parlé des droits télé. Hier, je sais pas si vous avez eu la rencontre.
Oui.
Terrible. Nantes-OL qui s'est disputé sans le moindre téléspectateur ou spectateur en tribune. La commission de discipline a infligé un huis clos pour les festivités Yann Loire avec les fumigènes et tout ça. Vendredi, Antoine Comboiré nous parlait finalement du match qui a eu lieu sans spectateur en tribune. Écoutez ce qu'il nous disait et à la fin, il parle des droits télé.
C'est vrai qu'il faut sanctionner, mais vous sanctionnez les gens qui jettent des projectiles sur le terrain, vous sanctionnez les gens qui rentrent sur le terrain, qui n'ont pas le droit d'être là, vous sanctionnez quand il y a de l'insécurité pour les spectateurs. Et sanctionnez pas tout un stade. Et aujourd'hui, vous êtes en train de négocier les droits TV et vous allez faire un match le dimanche à 20h45 à huis clos. Mais c'est une absurdité. Une grosse connerie.
Vous avez vu le match ?
J'ai
vu votre édito. Ah, vous y étiez ?
J'y étais.
Tristesse, on n'aurait pas dit ça.
Tristesse. C'était horrible. C'était horrible. On entendait tout ce qu'ils disaient.
Oui, c'est bien le problème d'ailleurs.
On ne savait pas si les mecs allaient faire leurs courses ou s'ils parlaient du foot. On entendait tout, que c'était assez étrange. Ça rappelait malheureusement les heures du foot sous Covid, donc c'était pas très agréable. Mais
ça n'a aucun impact sur les droits télé.
Non, je pense que ça n'a aucun impact. Ça a moins d'impact un match à huis clos sur les droits télé que la saison dernière, toutes les interruptions, toutes les violences, les matchs à Nice-Marseille, le Lyon-Marseille, tous ces matchs-là. Ou encore en novembre, le Marseille-Lyon avec le car à agresser. Ça, c'est très mauvais. Mais simplement, ce n'est pas du foot. Voilà, on a envie de le voir ni en vrai ni à la télé, en fait, ces matchs.
Et quand il y a de tels investissements, ce n'est pas parce qu'il y a un match sans ce supporter qu'on va se dire, tiens, finalement, on ne va pas investir.
De toute façon, regardez, ils ont été suspendus pour 637 objets pyrotechniques depuis le début de l'année.
Ouais.
C'est dire si les subventions, si les sanctions fonctionnent.
Ben oui. Notre invité, notre grand témoin, c'est Pierre Lescure, donc patron de Canal, patron du Paris Saint-Germain. On parlait des droits télé. Dans quelques minutes, on vous mettra sur le grill tranquillement sur vos années donc Canal+. Et qu'est-ce qu'a apporté Canal dans le sport ? Voilà, on parlera de ça avec évidemment quelques personnalités incontournables qui ont fait cette chaîne et la grandeur de cette chaîne. À tout de suite. Un petit air de disco là, mais en fait c'était le tube des Pet Shop Boys Go West qu'un groupe avait repris pour fêter le Paris Saint-Germain. Ça c'était dans les années 90, ça tombe bien puisque le patron de cette époque-là, le président du PSG, c'était Michel Delizio, président délégué, mais son N plus 1, c'est l'autre président, Pierre Lescure. Pierre, rebonsoir. Je vous représente votre ville-peuple, Vincent Duluc, Yvan Lemay, Hervé Penaud, toujours prêt à...
Oh, bon, j'adore, c'est toujours super.
Ouais, ouais. Attention, la dernière fois que vous avez swingé, vous êtes cassé le bras, donc faites
c'est vrai,
oui. Et Karine Galli, un pour les informations, moment. Les questions à Pierre Lescure sur le site L'Équipe. Évidemment, vous allez voir Virginie et Virginie Rolera. Pierre, président du PSG, patron de Canal, on a parlé des droits télé, j'allais vous mettre un peu sur le grill, tranquillement, sur les questions, on va dire, de ce qu'a apporté Canal dans le sport. Voilà. On va juste se faire une petite ambiance musicale.
Voilà. Oh, bah oui. Des jambes.
Ouais.
Des jambes sur le...
Aujourd'hui, Canal est considéré comme une chaîne de cinéma de sport. Est-il vrai qu'en 1984, le sport et le foot n'étaient pas forcément l'idée de départ?
Ah ben, c'est totalement vrai.
Ouais.
Parce que quand les technocrates de la, autour de Mitterrand et de Jack Lang ont l'idée de monter une chaîne à péage et d'utiliser le vieux réseau hertzien noir et blanc de TF1 qui vient de passer en couleur, ils se disent on va faire une chaîne qui sera de la contre-programmation culturelle. Donc, ils veulent faire de l'opéra à 19h, machin, etc.
Un succès.
Moi, quand...
un succès.
Mais un truc de dingo. Ouais. Et quand André Rousselet m'engage, donc en octobre 83, il me dit, voilà, on va faire une chaîne qui va faire un peu comme HBO aux États-Unis, du cinéma, et puis quelques autres trucs, mais du cinéma. Ce qui fait que pendant 4-5 mois, 6 mois même, on va négocier avec les gens du cinéma. Et les gens du cinéma, soutenus à fond par Jack Lang, il était dans son rôle de ministre de la Culture, disent, vous allez vider les salles, vous allez faire un mal fou au cinéma, et on va arriver à non seulement au fait que Canal devra investir 12% de son chiffre d'affaires dans le préachat, et donc le préfinancement des films, essentiellement français, un peu européen aussi, un, mais deux, vous n'aurez le droit que de diffuser 50% de cinéma. Pas le mercredi, puisque c'est les jours de sortie. Pas le vendredi, le samedi, le dimanche, parce que c'est là qu'on est en famille et qu'on sort pour le week-end. Donc, chaîne à péage. C'est la première fois qu'on fait payer la télé. Hein.
Oui,
jusqu'ici,
oui.
On payait que la redevance. Chaîne à péage dédiée au cinéma, mais vous ne passez que 50% de cinéma. Donc, on mange notre chapeau. On ne peut pas négocier à plus ou à moins. Simplement, il faut juste trouver, avec mon copain de greffe, André Rousselet et les autres, il va falloir trouver 50% d'autres choses.
Pour remplir la grille.
Et c'est là que va venir, entre autres choses, l'idée de se dire, mais si on regardait du côté du foot, c'est là que Jean-Claude Darmon jouera un grand rôle. Lui, il croit au péage et il va finir par convaincre Jean Sadoul de donner un peu de grain à moudre. Parmi les gens, les premiers que j'ai engagés, en dehors de, évidemment, d'Alain de Greffe, qui était mon partenaire, mon alter ego, mon frère à tous égards, c'est Denisot. Et Denisot et moi, on avait un mec qui nous impressionnait pour l'information sportive, c'était Charles Bietri.
Deux hommes ont révolutionné le sport à Canal. Le premier, on l'a vu furtivement commenter les matchs à côté de Michel Denisot, c'est Charles Bietri. La légende raconte, je ne sais pas si elle est légende, c'est vrai ou faux, mais vous l'aviez repéré en écoutant les commentaires de Thierry Roland lorsque Thierry commentait les matchs à la télé.
Ah bah oui. Mais pour ceux qui ont l'âge d'avoir connu cette période, pas vous les filles, mais en tout cas moi par exemple,
et quelques j'aimerais autres, pas que vous m'appeliez mes filles.
Mais Hervé par exemple, vous écoutiez à la radio ou même de temps en temps à la télé et vous aviez Thierry qui avait la gouaille qu'on lui connaît, qui quand il y avait un incident, un joueur blessé, un truc, une... Il disait, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais mon excellent confrère de l'AFP, Charles Bietri, m'informe que c'est une double fracture tibia péroné, etc., etc.
Donc lui... Et
l'info venait toujours de Charles Bietri, que moi j'avais connu à l'école de journalisme, il avait un an de plus que moi, et Denisot me disait, lui, pareil, que c'était la meilleure conscience journalistique pour venir donner de l'info sur le sport et des angles sur le sport à la télé.
La plus belle idée de Charles Bietri, j'ai trois choses à Canal à vous proposer. C'est l'arrivée de la NBA en 85, c'est la couverture des JO 92 et 96, Barcelone-Atlanta, ou c'est les yeux dans les bleus en 98. Ah.
je ne sais pas choisir ça, parce que c'est totalement complémentaire ce que vous dites. La NBA, c'est l'intelligence, puis ça va amener évidemment le commentateur là aussi, parce que Georges Eddy, ça fait partie de ces personnages qui je crois ont apporté de la chaleur, qui ont apporté de l'attraction, qui ont apporté du fun dans le commentaire du sport, et c'était merveilleux. Mais ça veut dire c'est l'ouverture sur l'international qu'on aura aussi à travers le football américain, avec le, on a même essayé effectivement le football australien, on en est revenu, et puis la boxe, etc., etc., l'athlétisme. Mais quand vous prenez ensuite le deuxième, c'était quoi ?
Il y avait les JO.
Alors,
les JO, vous vous êtes dit, ah, ouais, quand même là.
Ah non, mais c'est génial. C'est une des plus belles aventures qu'on ait connues dans notre vie, parce que d'un seul coup, on était sur le fuseau horaire. On sera encore mieux à Paris, évidemment, dans quelques semaines. Mais on était dans le fuseau horaire et toute la chaîne, et même les gens qui n'aimaient pas le sport, ont vécu au rythme de Barcelone. Donc c'est un souvenir. Et toute la chaîne était mobilisée, tout était JO. Et enfin, les yeux dans les bleus, c'est un avoir l'idée de ce documentaire, convaincre un homme comme Aimé Jacquet de laisser des caméras rentrer dans son vestiaire l'année où à Paris il se passe ce que vous savez, et ça donne en plus la qualité du doc. C'est des trucs qu'on n'oubliera jamais.
Vous choisissez pas, c'est donc complémentaire. L'autre personnage.
Et vous êtes d'accord, les garçons, les filles ?
Je sais pas.
Ah oui.
Ouais.
Ah, oui.
C'est complémentaire. On va pas choisir.
Ouais.
C'est...
Vous avez pas un truc qu'a fait Charles Bietri, hop, qui surpasse les autres ? Non.
Non, mais il y a aussi le traitement de la Ligue 1. Il y a le traitement du foot à la télé. C'est-à-dire que le nombre de caméras tout d'un coup est multiplié.
Ah bah attendez.
Par exemple, il y a ça aussi.
L'autre personnage clé de la Pas-de-Calais dans le sport, c'est le réalisateur Jean-Paul Jaude. Qu'a-t-il apporté en termes d'innovation télé ? Merci Vincent. Vous êtes toujours plus rapide que moi.
J'ai parlé de Deniso. Ça, c'est vraiment de greffe. Quand on a commencé à s'investir sur le foot d'abord, puis ensuite sur le sport, que Charles est arrivé, qui n'avait jamais fait de télé, Deniso et moi, on avait pas mal d'idées. Bietri en a eu mille et une pour qu'il y ait plein d'infos sans arrêt à l'image, qu'on donne des angles, des choses qu'on n'a jamais vues, pas seulement aller dans le vestiaire, mais tous les angles techniques qui décomposent un geste et qui expliquent une situation de jeu.
Donc la forme est au service du fond. Là,
exactement, là. La forme au service du fond.
Il n'y avait pas de gadget.
Et c'est là que De Greff nous dit... Mais le réalisateur qu'il faut aller chercher, c'est celui qui fait le tiercé. J'ai toujours adoré. C'est le seul qui nous montre à ce point comment, au trot ou au contraire au saut d'obstacle, comment les mecs font la différence. Cet homme nous la porte en gros plan. Il y a des ralentis, il y a tout. Et il avait raison.
Jean-Paul Jeu. Ok. Canal a systématisé la doublette journaliste-consultant. Tiens, pour vous, le meilleur consultant ou votre consultant préféré ? Là, comme ça, un consultant dans toutes ces années Canal.
Je vais dire d'enfoncer une porte ouverte. Quand on a pris ce contrat avec Michel Platini, quand il a pris sa retraite, et qu'on lui a... Moi, l'anecdote que je vous racontais dans l'avion avec Michel, c'est que vous savez toutes et tous que c'est un des hommes les plus intelligents qu'on ait rencontré dans notre vie. Une intelligence de naissance. Il peut faire trois fautes d'accord de verbe, et en même temps, c'est lui qui a l'idée lumineuse et l'analyse lumineuse.
On est plus près du 2-1 parfois, je disais. On est plus près du 2-1 là.
Ben voilà.
Et 30 secondes plus tard.
C'est-à-dire que Michel, c'est comme quand les mecs racontent que quand ils jouaient aux variétés, Bruel racontait toujours, je pars devant et puis je sais que Michel va me mettre la balle là. Et là, c'était pareil. Quand on écoutait Michel, le commentaire de Michel, vous savez bien, d'un seul coup, cette clarté, vous venez de très bien la résumer, Olivier.
Oui, ok, bah, très bien. Question essentielle, question qui peut être éliminatoire.
Oh là là.
Faites très attention. Qui a créé le Classico ? Est-ce Canal+, ou est-ce que c'est Bernard Tapie ?
Je pense que ceux qui ont créé le Classico, c'est l'équipe. Oh. Nous, ce qu'on a fait, en fait, pourquoi on rachète le PSG, vous le savez.
Oui.
En tout cas, ceux qui nous regardent le savent aussi, parce qu'ils vous regardent beaucoup. Le PSG était quasiment en dépôt de bilan. Ils allaient descendre. C'était une cata. Il n'y avait plus Bordeaux, parce que quand on a démarré, nous, nos matchs de championnat, Bordeaux était bon. Auxerre, les Auxerrois ne m'en voudront pas, mais c'était un peu comme une bagnole un peu gonflée. On savait que Monaco ne serait jamais épique. Et il n'y avait pas encore le Lyon d'Olas. Donc, on allait avoir Marseille et Paris, dans le pays le plus centralisé d'Europe, où il n'y a qu'un club. Boum, malgré rail maintenant, ça allait descendre. Donc, Chirac nous appelle et nous dit « Est-ce que vous seriez prêt à acheter ?» On achète, et évidemment, il va y avoir une bagarre Paris-Marseille.
Mais là, votre réponse me désarçonne.
Pourquoi ?
Vous me dites « C'est l'équipe ». Moi, je pensais que c'était soit Canal,
mais non.
Soit Bernard Tapie. Pourquoi l'équipe?
Parce que là, vous en avez fait un événement journalistique.
Ah ouais.
Je me souviens qu'effectivement, il y a un PSG OM au Parc en janvier, je dirais 94 ou 95, où ça prend des proportions énormes.
Bah c'est avant, non? C'est le PSG le plus violent?
C'est dans l'équipe. Il y a Arthur Georges doit dire, le regretté Arthur Georges doit dire, ils sont pas prêts pour la guerre.
On va leur marcher dessus.
Bernard Tapie met la une sur la.
Et après, c'est une horreur. Le match est incroyable.
Mais c'est avant, c'est avant.
Une boucherie.
92.
C'est pas beaucoup plus tôt. C'est pas beaucoup plus tôt.
Mais c'est pas 94, 95. Je pense que c'est 92.
C'est pas avant 93, en tout cas.
Et moi, en tant que président, parce que mine de rien, il y avait 25% d'abonnés Canal dans la région parisienne ou supporters du PSG. On avait fait une enquête. Donc ça veut dire 75% qui disaient « Putain, c'est avec mon pognon que vous allez aider ce club de Parigo, tête de veau, etc. »
Comment vous avez fait passer la pilule?
Je dis pas que j'ai réussi tout seul. Mais d'abord, on a fait beaucoup de pédagogie. Et moi, j'allais faire tous les matchs en tant que président non exécutif du PSG. Ouais. J'allais faire tous les matchs à l'extérieur. Je passais dans les FR3 locaux et j'allais expliquer... C'est pour que ce soit attractif, c'est pour qu'il y ait du suspense, c'est pour que ce soit mieux. Mais moi, vous savez, j'ai grandi avec le Racing, qui n'a jamais été champion de France, qui était toujours deuxième, mais que c'était toujours brillant, machin. Je vous assure, c'est pour ça qu'on veut faire.
Mais Pierre, dans le politique, vous êtes allé trop loin quand même en refusant de prendre la place de l'OM en 93.
Oui, ça c'est un vrai, très bonne question.
L'OM était premier, le PSG était second, et vous refusez de prendre la place par rapport à vos abonnés, alors que sportivement, le deuxième d'un premier qui triche, il doit être premier, point.
C'était pas possible de le faire.
Dans ma
économiquement,
tête,
c'était pas possible.
C'est pas économiquement. C'est que je me dis que tout le discours dont je me suis convaincu, mais en conscience, et que j'ai exposé à tous nos abonnés pendant ces fameuses premières années, on va être champion. Alors que on va être champion par rapport à la justice, mais on est champion sur le tapis vert. On n'est pas champion sur le terrain. On va en porter les stigmates et on ne nous le pardonnera jamais.
On a une minute de la pause. Pierre.
Mais c'est un vrai sujet.
Ouais.
On rappelle que Giroud s'était invité à la réunion alors qu'Auxerre n'était pas concerné pour gratter un
strapontin
en coupe de l'UEFA.
C'est étonnant.
Mais ça, on est à une minute de la pub. Pierre, on va faire un petit jeu.
Il est champion, lui, il a dit.
On fait un petit jeu. Ouais. Je lance sur une anecdote et vous continuez. D'accord ? On est au stade Vélodrome. Vous êtes avec Bernard Tapie, le boss Bernard vous fait descendre sur la pelouse, à côté il y a des journalistes, non loin de là, et là, racontez-nous ce qui se passe, voilà. Ça, vous l'avez celle-là.
Si on parle de la même, que Bernard a fait en sorte dont on se parlait, et puis à un moment, il me prend par l'épaule, et là, il me retourne, il est plus costaud que moi, et il me retourne et face au journaliste, il dit « Mais de toute manière, t'as qu'un droit, c'est d'être second. Tu pourras jamais être premier. On est d'accord là-dessus au moins. Parce qu'il faut faire comme en Italie, faut faire comme avec Berlu, faut toujours s'entendre. » Et moi, je sors, je suis non seulement plus léger, mais taché.
Pierre Lescure, président d'honneur de l'équipe du soir. Dans quelques minutes, on lui fera raconter ses anecdotes et ses années au Paris Saint-Germain. Président de 91 jusqu'en 2002. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de notre invité d'honneur, le président Pierre Lescure, président du Paris Saint-Germain et président de Canal+, entre 83 et 2002. Dans votre ville-peuple, mon cher Pierre, Hervé Penaud, Karine Galli, Yvan Lemay, Vincent Deluc, c'est maintenant... Virginie, c'est là où vous bossez, hein. C'est le Minuit Info, Virginie.
Ça m'arrive.
Les infos du jour et du soir. Victoire en Ligue 2 d'Auxerre, 2-0 contre 3.
Pénalty d'abord pour la GIA à la 49e. Main de Zoukrou dans la surface sur un centre de Mensah. C'est transformé par l'international japonais Ado Onaiwu. Et puis le break est fait à la 70e sur une énorme boulette du gardien de l'Estac, Dogan Almeida. Il veut relancer au sol. Il choisit Palaversa plein axe alors que Sinayoko est sur la trajectoire. L'attaquant récupère et creuse l'écart. Auxerre garde son avance en tête du championnat.
Almeida, évidemment. Pierre Lescure, à un moment, vous étiez au conseil d'administration de la GIA en 2014. Votre ami, c'était Emmanuel Limido, disparu depuis en mai 2015.
Oui.
On aurait pu vous avoir, vous, président...
C'est disparu un jour de finale entre Auxerre et Paris.
Ouais. Et on aurait pu vous avoir, vous, président de la GIA Auxerre.
Non, sûrement pas président, parce que ça n'aurait pas eu de sens. Mais j'étais content, j'aimais bien cet homme. qui avait bien les gens et le foot, et j'étais heureux de travailler avec lui.
Ok. L'Inter, ce soir en Serie A, Virginie, s'est imposé contre l'Udinese, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, mais alors l'Udinese a pris l'avantage d'abord à la 40e contre le cours du jeu sur un but gag. Samardzic, centre au sol, c'est dévié par Carlos Augusto qui surprend Sommer. L'Inter revient ensuite dans le match après la pause grâce à un pénalty, c'est tiré par Calhanoglu. Hop là, partout. Et puis Fratesi pour le but de la gagne dans le temps additionnel. Frappe puissante de Martinez d'abord, c'est repoussé par Okoye, c'est récupéré derrière. 2-1 pour l'Inter, large leader là aussi, italien.
Le but de Karim Benzema à présent, c'était ce soir et c'est dans le championnat saoudien.
Le Français a marqué dès la première minute de jeu en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite précisément. Il est bien placé dans la surface pour prendre le rebond et ouvrir le score. Son équipe l'emporte 2-1 et se qualifie pour la finale. Il n'avait plus marqué depuis le 15 décembre, c'était en Coupe du Monde des clubs.
Ça fait plaisir de le voir marquer, Vincent, non, Karim Benzema?
Oui, mais enfin, le football saoudien, ça ne m'intéresse pas beaucoup, j'avoue.
Ça n'intéresse personne ici sur le plateau de football saoudien?
Moi, ça me fait très plaisir.
Oui, oui, bah, je sais bien.
Oui, moi, ça me fait plaisir.
Il se prépare pour les JO, Virginie, c'est ça?
Oh, ça, j'en sais rien.
Les amis, je vous ai patienté parce qu'on a là une image qui vient d'arriver. Ah. Il semblerait le pétage de plomb de Cristiano Ronaldo ce soir.
Le gros pétage de plomb, même. Vous allez voir, c'était dans l'autre demi entre Al Hilal et Al Nasser, l'autre demi de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Le Portugais a été expulsé dans la foulée pour ce geste. Et son équipe s'est inclinée 2-1.
Voilà.
Ouais, t'as vu ça?
Ah oui, c'est ça.
La Ligue des Champions à présent, tour des confs, on commence par le grand match de demain, hein. Real Madrid-City.
Le Real qui reçoit Manchester City, Carlo Ancelotti se dit très très nerveux avant le choc. On va l'écouter.
Si, très nerveux. Avant les matchs, quelques heures avant, personnellement, ce sont des moments de souffrance. La victoire seule est un soulagement, parce que durant les jours qui suivent la victoire, tu peux être plus tranquille et plus heureux. Mais la souffrance fait partie du travail. Elle t'anime, comme la pression et le stress.
En face, vous allez voir que Pep Guardiola ne respire pas vraiment la sérénité non plus.
Battre le Real Madrid deux fois de la même façon est presque impossible. Parce qu'ils ont appris, ils ont de la fierté et ils devront être malins demain et on verra ce qu'il se passera au match retour. Tu ne peux pas venir ici juste pour contrôler le jeu. On est là pour essayer de les blesser, pour qu'ils sentent qu'on est ici pour marquer des buts.
Hormis le PSG Barça qui nous concerne, c'est l'affiche, Real City ?
Mais c'est la grande affiche, c'est la grande affiche. C'est les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et c'est juste les deux meilleures équipes du monde sur les dernières années.
Voilà. Ok, très bien, bonne présentation. On enchaîne, Arsenal, Bayern.
Malgré la méforme de son adversaire en Bundesliga, Mikel Arteta sait qu'il affronte une équipe expérimentée en C1.
Quand on regarde l'histoire de la compétition, c'est clair, ils ont une vraie nature à performer dans les grands moments. Pour nous, ça reste à prouver.
Avez-vous demandé des conseils pour battre le Bayern Munich à votre ami Xabi Alonso?
Très bonne question, mais je n'y répondrai pas.
Quant à Thomas Tuchel, il avoue certes un manque de constance de son équipe, mais ça ne l'empêche pas de rester confiant.
Cette année, nous n'avons pas montré un niveau de qualité en Bundesliga de manière constante. On s'est préparé tactiquement, on a analysé et on a mis en place l'équipe. Il faut oublier ce qu'il s'est passé en Bundesliga. Cette saison, nous jouons surtout contre nous-mêmes. Nous devons montrer une meilleure version de nous et il ne faut surtout pas se cacher.
Vincent, alors qu'Arsenal semble sur une bien meilleure dynamique que le Bayern, il y a le poids de l'histoire qui rentre en jeu dans ces confrontations. C'est quoi? C'est pour faire parler? C'est du storytelling ou il y a un vrai poids?
Non, mais on voit bien notamment dans les résultats du Real que l'Europe, c'est d'abord une culture. Et que la victoire aussi, c'est une culture. Et qu'il faut commencer à gagner en Europe un jour pour s'installer tout en haut. Tant qu'on ne commence pas à gagner, c'est compliqué. Je pense que c'est ce qui manque par exemple au PSG et que l'Arsenal manque vraiment d'expérience. Ils n'ont pas de joueurs qui sachent réellement ce que c'est de gagner une Coupe d'Europe. Le Bayern a beau être en grande difficulté en championnat, eux, ils savent.
Hein. Mmh. Okay. Le sport français perd deux figures aujourd'hui.
Nicolas Hollweck est mort ce matin à l'âge de 52 ans. Il avait révélé souffrir d'un cancer en mars 2021, alors qu'il était président du Stade Rennais après avoir occupé le poste de directeur général adjoint à Monaco jusqu'en 2020. Il s'était mis en retrait pour se consacrer à son traitement avant de revenir l'été dernier à la tête de Nancy. Le club de National lui a évidemment rendu hommage. Et puis une légende du rugby s'est éteinte. André Boniface, légende du 15 de France. 48 sélections en bleu pour l'archange du French Flair et du trois-quarts centre entre 1954 et 1966. Il est décédé ce lundi à l'âge de 89 ans. Le groupe L'Équipe adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches touchés par ces deux disparitions.
Qui veut me parler d'André Boniface ?
Pierre, je pense.
Pierre ?
Je suis né avec ça. Quoi. Ouais. Je suis de la génération qui a connu les footeux en 58 en Suède avec la magie de Coppa et autour de lui. Mmh. Et puis la magie autour de Lucien Mias, des avants intelligents, extrêmement mobiles et costauds, et en même temps ouvrant derrière vers des gens d'une créativité folle, entre Bouquet, entre Vanier, et puis les deux Boniface. Et en plus, regardez la beauté du visage d'André Boniface. Non seulement il jouait bien, mais il était beau, il était élégant. Je crois qu'humainement, c'était vraiment un mec très très bien. Et puis il a eu la tragédie de son frangin Guy. Mmh.
Vraiment. Un accident de voiture en 1968.
C'est incroyable. Hein. C'est un tournant. L'équipe de France en 58 au foot et ces gens-là autour de Mias et des Boniface dans le rugby, ça change tout. Et le monde sait que ça change. Parce que pour la première fois, les Français battent les Africains du Sud, etc., etc.
André Boniface, c'est pour moi un ouvrage de Denis Lalanne aux éditions de la Table Ronde. C'est le temps des Bonis. C'est le parcours de ses deux frères, André et Guy, avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de choses et un drame, le drame de la perte du frère Guy. Moi, ça me revient à ça parce qu'évidemment, je ne les ai pas vus jouer. Mais c'est cette culture-là, moi. Boniface, pour moi, c'est Denis Lalanne.
Je suis d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, j'ai retweeté la couverture du livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque cet après-midi. Et effectivement, c'est un livre magnifique qui raconte effectivement à la fois...
T'as tweeté, mon gars.
Et à la fois toute la...
C'est le temps des Bonis, je ne sais pas
voilà, si... Voilà, le temps des Bonis, ça s'appelle, aux éditions de la Table Ronde. Mmh. Et qui rappelle aussi cette vieille phrase, je ne sais plus de quelle était, qui disait que le meilleur des deux frères, c'était celui qui n'avait pas le ballon.
C'est de la laine peut-être.
Bah ouais.
Je sais pas, peut-être. De lui. En tout cas, c'est la légende. Donc après, tout le monde a le droit de se l'approprier.
Sans transition, Monte Carlo, bonne nouvelle, ça passe pour un Français. Hugo Humbert.
Oui, deux même, vous allez voir. Mais ça passe difficilement pour Hugo Humbert. D'abord, il s'en sort dans la douleur face à Federico Coria pour son premier match dans le tableau principal de ce tournoi monégasque. Il perd 4-6 la première manche alors qu'il menait 4-2. Le Messin a commis 17 fautes directes avant de se ressaisir. Il se balade ensuite, 6-1, 6-2. Et il aura une carte à jouer au deuxième tour contre le Chinois Zhang Zizhen ou l'Américain Marcos Rigon. Arthur Fils a déroulé, lui. C'est le deuxième Français qui se qualifie. Il a 19 ans. Il a surclassé Yannick Hoffmann qui est complètement passé à côté de son match. Il n'a eu besoin que d'une heure et deux minutes pour évincer l'Allemand. Il jouera Lorenzo Muzzetti au tour suivant.
Le duel Batum-Wemby a animé la nuit en NBA la nuit dernière.
Encore un double-double pour Victor Wembanyama, qu'on n'arrête plus tout simplement. 33 points plus 18 rebonds dans ce match des Spurs contre Philadelphie. Pas suffisant pour empêcher la victoire des Sixers, portée par un autre Français, Nicolas Batum. C'est lui qui avait la lourde tâche de défendre sur Wemby en fin de rencontre. Et il est revenu avec humour sur ce passage. Mmh. Quand tu joues ce genre de phénomène qui a 20 ans, alors que tu en as 35 et que tu as déjà 40 minutes dans les jambes, tu n'as pas le choix. Sur la première action, j'ai fait exprès de le mettre par terre. Ça n'avait rien de personnel. Il fallait qu'on gagne le match. Autre info, celle de la qualification de Milwaukee pour les playoffs. Les Bucks prennent leur ticket à l'Est malgré la défaite contre New York, 109 à 122. La star de la franchise, Giannis Antetokounmpo, a inscrit 28 points et pris 15 rebonds. En face, les Houston Rockets, battus pour la cinquième fois d'affilée, sont eux éliminés.
Wow. Une information qui vous fait plaisir, parce que la flamme olympique va passer aux Antilles.
Eh oui,
vous, Virginie, et on connaît l'équipage qui va porter cette...
Jusqu'à Pointe-à-Pitre.
La flamme.
Ouais. Équipage éclectique, c'est le cas de le dire, pour accompagner le navigateur Armel Lecléache. Ouais. Depuis Brest, 9 personnalités au total, dont certains noms du sport comme Laura Flessel, Tony Estanguet ou Marie-Josée Pérec, mais aussi des visages de la culture française, comme l'ancienne Miss France Marine L'Orphelin et l'acteur et metteur en scène Alexis Michalik. Il nous a fait l'honneur de passer une tête dans nos locaux cet après-midi et il nous a expliqué sa réaction quand on lui a proposé le projet. Mmh. Écoutez, c'est assez rigolo. Ah.
J'ai tout de suite dit non, pas du tout. Moi, je préfère y aller en avion. J'ai pas du tout envie de risquer ma vie en mer. Et puis après, j'en ai discuté avec des amis, notamment des copains voileux, qui m'ont dit « Mais t'es dingue, c'est l'opportunité d'une vie. Évidemment qu'il faut que tu le fasses. » Donc je les ai rappelés en disant « Bon, bah, peut-être que finalement, je suis intéressé. » Moi, j'ai prévu de garder la flamme, mais je ne sais pas si les instances olympiques seront d'accord. Quand elle arrive là-bas en Guadeloupe, notre mission est terminée, mais un autre équipage va prendre place au sein du trimaran et va partir en Martinique, toujours avec cette flamme-là. Puis elle va revenir en France, métropole, je veux dire. Et de cette métropole, en fait, elle va terminer son parcours, dont Avignon, le 19 juin.
Une fois n'est pas coutume, ça bougonne sur le plateau de l'équipe du soir. Enfin, c'est Hervé Penaud qui bougonne. Qu'est-ce qui se passe?
Non, quoi, nous bougonnons, parce que Jean Galfione devait être de cette aventure-là. Ouais. Et on l'a évincé. En fait, l'histoire, ce qui est quand même purement scandaleux, parce qu'on parle de Jean Galfione, champion olympique, qui en plus, côté mer, il connaît un petit peu le boulot, parce que c'est avec mes temps, il fait de la voile. Donc je trouve ça me paraît hallucinant que Jean Galfione ait été évincé de cette manière-là, alors que lui, pour le coup, c'est vraiment un emblème du sport français.
Et olympique. Prévu de faire la traversée.
Et bien sûr.
Et d'ailleurs, ils ont discuté avec Marie-Josée Pérec, qui a expliqué qu'évidemment, elle voulait que tous les deux, ils soient présents pour cette traversée et qu'il n'y ait pas Jean Galfione qui soit évincé. Il a été plutôt très classe parce qu'il a accepté la décision, mais c'est hallucinant. Enfin, si t'as un champion olympique qui représente à la fois, effectivement, l'athlétisme et la mer, qui est évincé parce qu'il faut aussi mettre des personnalités qui sont autres que le sport, c'est pas très logique.
Pourtant, Michalik a un talent en théâtre. Hein.
Ah non, mais je parle pas pour lui. Hein. C'est même pas lui qui lui a piqué.
On a rien contre lui.
Non, mais c'est même pas lui qui lui a entre guillemets piqué la place. C'est pas ça, hein, Mémé.
Ouais, non, mais.
C'est que je pense qu'il y avait de la place pour tout le monde. Et non, c'est sûrement pour Jean Galfione, a priori.
Parce que je découvre le théâtre, il est magnifique. Ah.
Voilà. Ah, mais vous êtes allé voir sa pièce il y a
c'est
pas longtemps.
Ouais.
Mais oui, je me souviens.
C'est dingue. C'est lui qui a poussé, en fait, pour qu'il.
Non, mais on parlait pas de tout
en plus. Virez-moi Galfione.
Mémé, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit.
Non.
Ça, il a beaucoup de talent.
Galfione ou Molière.
Il a énormément de talent. Mais il est beaucoup moins bon sur la perche, par contre.
Oui.
Il n'a pas été champion.
Pierre Lescure, notre président d'honneur ce soir. On va vous interroger sur vos années au Paris Saint-Germain, puisqu'en 1991, et vous nous l'avez expliqué avant la pause, le Canal Plus rachète le Paris Saint-Germain. Alors, vous nous avez expliqué en 91 pourquoi le Paris Saint-Germain ou pourquoi Canal rachetait le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai lu un truc incroyable, on est en 1996, c'est André Rousselet, président fondateur de Canal+, qui confie ceci à France Football. À l'époque, il y avait urgence à acheter le Paris Saint-Germain. Les grands clubs italiens et espagnols avaient mis en chantier l'idée d'un championnat d'Europe regroupant toutes les grandes équipes. Déjà, cette menace de la Super League. Et c'était l'une des clés du rachat, parce qu'il ne faut pas être monolithique, mais ça, c'était une vraie menace en 91 aussi, d'après André Rousselet. Hein.
En tout cas, je sais que plusieurs personnes avaient donné cet argument à André Rousselet en disant « Attention, à terme, ça peut devenir un concurrent à la Ligue des Champions qui nous intéressait déjà énormément, etc. etc. » Nous, ce n'était pas un truc qui nous motivait beaucoup, c'était plus le binaire du championnat de France. Mais c'est vrai que cet argument-là a été avancé à l'époque à André Rousselet.
J'ai lu des choses, en 98-99, il y a la menace de la Super League. Hein, et là, vous prenez votre bâton en disant « Non, mais ce n'est pas possible, hein, déjà. » Donc c'est toujours une même menace qui revient, donc 91,
doute, ça, c'est sûr.
98 et puis actuellement. Question de Karine Galli sur un certain Michel D. Vous avez une question à poser, Michel D.
Oui, parce que j'imagine que forcément, quand vous avez dû choisir l'homme pour être président délégué, il y a eu beaucoup d'options. Pourquoi ça s'est porté sur Michel Denisot?
Écoutez, non, je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup d'options.
Beaucoup de candidats, peut-être?
Il y avait un certain nombre de candidats extérieurs à Canal. Mais moi, je souhaitais que ce soit quelqu'un de Canal, parce que c'était un choix de politique du groupe et de la chaîne qui impliquait beaucoup de choses par rapport à tous nos abonnés. Et la sobriété efficace et intelligente de Michel était pour moi un des paramètres. On se connaît depuis 1974, on a le même âge à 2 mois près. Je suis plus jeune, je suis plus jeune de 2 mois que Michel. Et il nous regarde et il vous embrasse. Et je connaissais le journaliste. Je connaissais son analyse du sport et du football essentiellement. Donc je savais que journalistiquement, il allait travailler sérieusement sur les faits et qu'en même temps, ses analyses, sa passion depuis toujours, allaient faire qu'il allait donner un supplément d'âme, mais toujours avec cette sobriété de Michel. Moi, je savais que j'allais avoir un circuit court avec lui. C'est ce que je souhaiterais au PSG d'aujourd'hui. Il y avait le président de l'exécutif, puis il y avait le patron. Et Michel était le patron. Et j'avais besoin, pour moi, il représentait toutes les qualités à la fois de responsabilité, de sobriété, de connaissance et de passion dans cet ordre-là. Et que ça allait être bien. Mmh. Et il a rempli cet office à merveille.
Pierre, j'ai appelé Michel pour préparer cette émission. De votre compagnonnage, je vais le citer. Pierre m'a toujours fait confiance, même quand je sentais qu'il n'était pas d'accord. Est-ce que...
C'est-à-dire
Après, j'ai un exemple, mais est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que, voilà, vous dites, ok, c'est bon, prends ta décision.
Moi, j'ai un vieux truc, mais j'avais la même chose avec Alain De Greffe sur l'ensemble des programmes.
C'est le directeur des programmes de Canal+.
Quand je délègue à 100%.
Ok.
Il n'y a pas de nuance. Mmh. Comme Rousselet m'a délégué à moi à 100%. Et s'ils font une erreur, j'en suis le responsable puisque je les ai nommés.
D'accord.
C'est moi qui ai fait le casting. Et il m'arrive de temps en temps de ne pas être d'accord.
Oui.
Sauf si je pense que la patrie est en danger et qu'il est en train de perdre la boule. Mais c'est jamais le cas.
Okay.
On est toujours sur quelque chose de plus fin que ça. Et donc même quand j'étais pas d'accord, j'ai toujours suivi et fait confiance. Allez-y, votre anecdote.
Mais non, j'ai lu qu'en 1998, vous étiez favorable à un déménagement du Paris Saint-Germain au Stade de France. Michel Denisot était plutôt favorable à l'idée de rester au Parc des Princes. Pourquoi ça ne s'est pas fait?
Parce que ça aurait été une connerie. Sur le coup, on avait un problème, on a toujours eu un problème à Paris. C'est à la fois l'accessibilité du parc qui est quand même pas, et la manière d'offrir un service complet qui a jamais été extraordinaire, d'une part, et il y avait cette idée qu'il fallait vraiment que Paris, pourquoi Paris est je le disais tout à l'heure, dans la capitale du pays le plus centralisé d'Europe, on est la seule capitale qui a qu'un club. Il y avait un truc qui collait pas. Donc on se disait, tout ce qu'on est en train de faire au PSG, ça va faire que quelqu'un va, un
mais
autre club va venir.
Mais pour vous sous-dimensionner?
Non,
en tant qu'outil?
Non. Moi, j'avais dit que j'étais pas contre étudier la chose. J'ai jamais dit que j'étais pour. Hein. Je crois pas que vous ayez vu une déclaration où je me déclare vraiment pour. Mais j'étais prêt à l'étudier dès lors qu'on savait que le stade, après la Coupe du Monde, ne serait pas beaucoup occupé.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc, que le Paris Saint-Germain, la direction menace de partir du...
Mais là, on est dans les affaires, on n'est plus dans le foot.
Ouais, là, non.
Franchement...
Ce serait une connerie.
Je pense que ce serait une connerie.
Ok. Nous sommes le 18 mars 1993. Quart de finale de la Coupe de l'UEFA où Paris va renverser le Real 4-1 avec le but de Casque d'or, Antoine Comboiré. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand match de l'histoire du Paris Saint-Germain ou seulement de l'ère Canal+?
Ce serait... Pour moi, c'est un très grand match parce qu'il y a tout ce que vous aimez, tout ce que vous nous racontez si bien, aussi bien en télé qu'en presse écrite. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un vrai grand match, deux très belles équipes, qu'il y a un vrai match pendant 90 minutes et qu'il y a une dramaturgie, qu'il y a un scénario. Fallait l'écrire, ce truc. Quand il effleure le ballon de sa tête, dans la tribune, tout le monde est extatique. Pas seulement parce qu'on va battre le Real, parce que c'est un moment comme on les aime et on les aime depuis l'enfance. C'est un des matchs où il y a eu l'émotion la plus pure.
Ouais.
Et j'adore ça.
Autre très grand match. Paris Saint-Germain, j'étais à Bucarest, on est le 27 août 97. Ah, vous marrez, hein. Retour préliminaire de la Ligue des Champions. Pour nos jeunes spectateurs, au match aller, le PSG a perdu le match sur tapis vert car un joueur n'aurait pas dû jouer, il était suspendu, c'est Laurent Fournier. Conséquence, Paris perd le match sur tapis vert, ça veut dire 3-0, ça veut dire que pour que Paris passe, il faut qu'il gagne par 4 nuls d'écart. Alors j'ai appris en préparant cette émission que vous aviez validé une prime exceptionnelle pour toute l'équipe. Je vous laisse annoncer la somme.
Moi, j'avais pas le souvenir.
Vous n'avez pas le souvenir?
Non.
On m'a raconté des craques.
Non, c'était sans compter, moi.
Alors, on m'a dit 200 000 francs par joueur, donc ça fait 30 000 euros par joueur, donc ça fait près de 700 000 euros la qualif. C'était un... Moi, on m'a raconté que les primes avaient été extraordinaires.
Oui, mais écoutez, j'ai pas le souvenir, Michel qui nous écoute.
C'est pas Michel qui me l'a donné.
Non, je sais, mais il doit se souvenir.
Il donne rien, Michel.
Michel, il avait juste payé le sorcier africain. Elle est marquée à la 38e.
Voilà. Mais il a marqué à la 41e.
Oui, 41e.
Mais ça nous semblait, on était tellement honteux de cette faute, de cette erreur administrative. c'était tellement indigne de notre part. Il fallait derrière que les joueurs en enfilent quatre. Ils ont fait encore mieux. Ouais. Mais c'était tellement... Il fallait tellement effacer ça que sans doute, j'ai dû dire, oui...
Banco,
il faut qu'ils aient en plus de l'honneur, qu'ils aient un intérêt évident.
Mais c'est un des soirs où le parc a fait le plus de bruit depuis le début de l'échauffement jusqu'à la fin du match. Dès l'échauffement, en général, c'est calme. Mais là, c'était électrique, c'était complètement fou, c'était incroyable.
Il y avait une rage devant la paire de claques qu'on aurait dû se mettre, qu'on s'est mise d'ailleurs le jour où on a compris la connerie qu'on avait faite.
On va parler des joueurs à présent, mais c'est Karine qui avait une question à vous poser. La deuxième, Karine.
Tout à fait. Alors vous avez parlé de votre plus grande émotion, le match PSG-Real. Quel est le joueur qui vous a procuré le plus d'émotion? Pas le plus fort, hein, forcément, mais celui qui vous a procuré le plus d'émotion quand vous étiez aux manettes au PSG?
Je ne vais pas être très original, mais c'est Rai. Parce que c'est, comme peut-être certains s'en souviennent, il a mis du temps à s'acclimater à Paris. Tout le monde ne l'a pas forcément aidé. La classe du mec que vous voyez encore aujourd'hui, le fait que cet homme porte sur les épaules à la fois le poids de Socrates,
son
frère. L'autre frère était procureur général... très démocrate dans un pays qui tombait dans la dictature, déjà à l'époque. C'était quelque chose. La tenue du gars. Et puis, il arrive à Paris. Il met donc un an à s'acclimater. Et puis, il va avoir cette influence sur le jeu, cette accélération du jeu. Comme il avait... Ça m'avait tellement frappé la façon dont il avait accéléré le jeu quand le Brésil était venu en amical foutre une raclée à la France. Mm-hmm. Je m'étais dit, mais c'est incroyable ce qu'il accélère. C'est insensé. Tout a l'air d'aller plus vite dès lors que Rai a la balle et s'en défait si vite et si intelligemment. Et puis, je vais vous raconter un truc. Peut-être je te l'ai raconté à toi, Vincent, mais je ne l'ai pas raconté souvent. On l'a engagé un an avant son arrivée. Oui. Et donc, il était de passage à Paris. Il commençait déjà à dire quelques mots. Et on a monté un dîner autour d'André Rousselet, le fondateur de Canal. Dans les locaux de Canal, on a fait un dîner. Il y avait Fournier était venu, Le Guen, Michel, tout le monde. Il y avait également Valdo qui était là, il y avait Ricardo. Et puis, à un moment, Rousselet demande à Rai, mais qu'est-ce qui fait que vous demandez à avoir un contrat de 4 ans? Pourquoi 4 ans? Pourquoi... Et Rai répond en français à Rousselet, parce qu'avec ma femme, on a discuté, on s'est dit que 4 ans, c'est ce qu'il fallait pour nos enfants pour vraiment acquérir la culture française.
Ouais, incroyable.
Dit,
dimension.
Le mec, il coche toutes les cases.
On a pris un mort. et le pire joueur, le plus gros échec de recrutement sous l'ère...
J'ai oublié le nom d'un défenseur brésilien.
Geraldão.
on l'a bien connu, bravo.
Ben voilà.
Non, il est arrivé en même temps que Ricardo, Geraldão. Il avait la coupe à la Lionel Richie, il avait le poids de Carlos. Hein, à peu près, non? On est d'accord ou pas?
Honnêtement, ouais. L'équipe était allée faire son accueil à. Je me rappelle, j'étais déjà à l'équipe.
Ouais.
L'équipe avait fait son accueil à Roissy.
Ouais.
Et l'envoyé spécial qui était à Roissy a dit franchement, il a l'air très très bon.
Question d'Hervé Penaud, à propos du management, mais avec toutes les casquettes et toutes les stars que vous avez rencontrées, des vedettes.
Oui, c'est un peu voyager dans l'univers du spectacle de manière plus globale. Hein, vous avez connu des gens dans le sport, bien sûr, dans le foot, dans la musique, à la télé, dans le cinéma. En termes d'ego, les footballeurs, vous les placeriez comment par rapport aux autres, dans d'autres domaines du spectacle?
Je pense que c'est rare qu'un footballeur... on ne peut pas parler d'ego. De temps en temps, ils peuvent avoir une distance parce qu'on les adule, parce qu'ils représentent une somme d'argent considérable, parce que des dirigeants ne savent pas les traiter humainement de manière... ils n'ont pas forcément l'éducation, etc. On a vu la nouvelle génération arriver un peu clinquante et un peu caricaturale à pas mal d'égards. Mais un footballeur, il y a toujours un moment où il sait qu'il a rendez-vous, lui, et pas les autres. Il a rendez-vous, lui, sur une action qui va être en direct, qui va remettre en jeu ce qu'on aime chez lui et ce qu'il est capable de faire, lui, dans un collectif. Il y a tellement d'inconnus qu'il y a toujours un moment où le footballeur, on peut reprendre le dialogue avec lui. S'il est bon, c'est qu'il a une dose d'intelligence assez conséquente. Sinon, il n'est pas très bon. Ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines que vous avez évoquées.
OK. On a un nouveau message. Question pour Pierre Lescure.
Un internaute JTVD qui vous demande, vous, en tant que président du PSG, est-ce que vous auriez proposé en 2022 le contrat de 2 plus 1 an à Kylian Mbappé?
Ah. Peut-être. Je sais pas. Sans doute.
Ouais.
Je dis sans doute parce que je me suis pas penché sur la question et à l'époque, ça m'a pas ultra choqué. Je pense que c'est peut-être plus l'environnement ou les propos qui ont accompagné la proposition qui n'ont peut-être pas été les bons.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand vous proposez un contrat comme ça articulé, c'est qu'il y a au-delà des discussions contractuelles et financières, il y a un dialogue avec des dirigeants, si on est dans un circuit court où le dialogue est permanent et équilibré. Chacun dans sa position. Je ne suis pas sûr que c'était le cas.
OK. Je ne sais pas si le téléspectateur a eu la réponse qui demandait. Dans les histoires de Mercato, moi, ce qui me passionne, c'est les joueurs qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivés. Alors, à plusieurs reprises, Roberto Baggio aurait pu signer au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
En tout cas, je n'ai aucun souvenir.
Pas du tout.
Je suis désolé.
Non, c'est rien. Ben voilà, merci beaucoup. Il y en a un je me relance là. Il y en a. J'ai entendu un moment Waddle. Waddle, l'icône de Marseille.
Non. Allez, je sais pas. Excusez-moi. Laissez-le à Marseille.
Oh, mais c'est dingue.
Est-ce qu'il y a un joueur avec Michel en disant putain, mais ramène-moi ce joueur-là.
Avec Michel, sur Waddle, on a toujours dit s'il change de coiffure.
Belle coupe quand même.
Ça revient à la mode.
Est-ce qu'il y a un joueur que vous auriez aimé avoir au Paris Saint-Germain? Alors, je retourne la question différemment. Ou pas? Et ça s'est pas fait?
Non, franchement, rien du tout. Je ne me souviens pas d'une négociation avortée ou qui soit mort-née. Ce qui revient à peu près à la même chose. Mais non, je n'ai pas souvenir de ça.
Ok, d'accord. Je passe.
Non, j'aimerais raconter des histoires mirifiques, mais non. Vous savez, à l'époque, Michel, il a quand même fait des. En travaillant pas mal avec les entraîneurs, il a fait quelques acquis. Il y a eu un moment, une compo d'équipe qui avait quand même de la gueule.
Oui. Il y avait Gérald Dao déjà. Mais il était bon à l'arrivée.
Retourne le coup.
Ok, d'accord, ok. J'ai fait deux conneries majeures. C'est ce que vous avez déclaré dans l'équipe le 5 novembre 2004. La première était de faire venir Bietri comme président délégué pendant 9 mois en 98. Le jour où vous avez réalisé que c'était une erreur d'avoir Charles Bietri comme président délégué, est-ce que vous en souvenez? C'était quand? Quand est-ce que vous êtes aperçu? Oui, j'ai fait une erreur, vous l'avez reconnu quelques années plus tard.
Bietri est sans doute un des types les plus responsables, les plus exigeants, les plus rigoureux, les plus imaginatifs et les plus connaisseurs de sport que j'ai rencontrés dans ma vie. Et Canal, le sport à Canal lui doit au moins 60 à 65% de tout ce qu'il a été et de tout ce qu'il est devenu. Je pense que Charles, au PSG, c'était une telle passion qui remontait loin. Moi, je me souviens, dans les couloirs de l'école de journalisme, le CFJ, où on était, pour moi, c'était un ancien, il allait sortir un an avant moi. On disait, mais Bietri, c'est un des meilleurs de sa promotion, mais il sera sans doute pas journaliste, il veut être Gaulle à Boulogne. C'était son truc.
Boulogne-sur-Mer.
Ouais. Il hésitait beaucoup entre se lancer dans le foot, où il aurait été Gaulle, ou journaliste.
Il a pris une bonne décision,
sans doute, mais en même temps, sa passion l'a toujours tenu. Et je pense qu'au PSG, c'est le seul moment. Après, il a fait plein d'autres choses dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Mais au PSG, la passion l'emportait sur la rigueur.
Ok. J'ai fait deux conneries majeures. La première était de faire venir Bietri. La deuxième, c'est d'avoir laissé Laurent Perpère, le président délégué, puis après le président, trop seul. Il n'avait pas toute la palette pour faire face à la malignité d'un Luis Fernandez, coach du Paris Saint-Germain à l'époque, et l'ensemble des problèmes qui se posaient. La même question. Le jour où vous êtes rendu compte que Luis Fernandez avait mangé Laurent Perpère, c'était quand?
Je pense que c'est le jour où on a pris...
Anelka?
Non, parce que ça, Anelka, on était tous d'accord.
D'accord.
Non, il n'y a pas un jour où je me suis rendu compte. Mais Laurent Perpère est un humaniste, est financier, mais il est d'abord humaniste. Mmh. Il y a quelque chose d'extrêmement, non pas naïf, parce qu'il serait pas, il n'aurait pas la réussite financière qu'il a eue en tant que directeur financier de plein de... Et à Canal, il a été un très bon directeur financier. Mmh. Mais il y a quelque chose de généreux et de naïf chez Laurent. Mmh. Donc vous pensez que, avec sa manière de s'exprimer qui n'appartient qu'à lui, il y a un moment où Louis s'y s'est baladé. Et moi, Laurent, je lui ai passé le manche de président lorsque j'ai commencé à partager mon temps entre Paris et les États-Unis.
Le studio Universal.
Le studio Universal. Mmh. Donc, il était un peu seul. Et forcément, il se faisait manger le ventre par Louis.
OK, pas bien. Dans quelques minutes, dans deux jours, c'est le grand match, Paris-Barça. Avez-vous des bonnes sensations? Paris va-t-il réussir son grand événement, son examen de passage? Dans quelques minutes, on en parle avec notre grand témoin, Pierre Lescure, et tous les copains et les copines de la bande.
Allez, surtout vous.
Bah oui. Dernière ligne droite de l'équipe du soir, c'est déjà demain. On n'est pas encore mardi. Enfin, on est mardi, on n'est pas encore mercredi, le jour du grand match Paris Saint-Germain-Barça. Qu'est-ce qui se trame du côté du journal L'Équipe, la une, Virginie?
Plus qu'une rivalité. Regardez comme c'est travaillé. Regardez ça. Depuis 2017, rien ne va plus entre le PSG et le Barça, qui s'affrontent donc mercredi soir. Les dirigeants s'accusent mutuellement d'agissements déloyaux.
Dans deux jours, le Parc va accueillir le Paris Saint-Germain-Barça en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Du côté du Paris Saint-Germain, on va dire tous les indicateurs sont plutôt beau fixe. Paris est en tête de la Ligue 1, Paris est en finale de la Coupe de France, Paris a déjà un trophée, le trophée des champions, remporté en janvier contre Toulouse. Et Paris est sur une série de matchs sans défaite depuis 27 matchs. Dernière défaite, dernier galin, c'est en Ligue des Champions. C'était au Milan. Paris est-il prêt pour réussir ce grand événement? Les copains, vous êtes...
En tout cas, ils ne nous ont pas rassurés.
Pas rassurés?
Ni inquiétés.
Bah, ils sont sereins. Ouais. C'est pas le match de ce week-end où ils ont changé 11 joueurs qui met en cause...
Non, je ne me base pas sur le PSG, clairement. Non, a priori, non. Non, mais est-ce que tu les as trouvés extrêmement rayonnants depuis bien? Effectivement, la série d'invincibilité, elle est impressionnante. Sauf que le dernier gros rendez-vous, on va dire, de Ligue des Champions, c'était la Real Sociedad. Et ce n'était pas un cadre européen, le PSG était favori, ils ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier, mais en n'étant pas exceptionnel, notamment au match aller. Demain, on bascule dans autre chose, parce que c'est le Barça, parce que c'est un grand d'Europe, parce qu'il y a eu un passé important avec le PSG. Donc là, c'est plus la même chose. On sait que le PSG est malheureusement capable de perdre ses moyens dans un match qu'il maîtrisait, etc., etc. Et il y a des joueurs aussi de talent, bien évidemment, du côté du Barça. Donc moi je vois pas comment on peut être rassuré, on n'est pas obligé d'être inquiet, mais le PSG n'est pas en position de favori, je trouve, avant cette double confrontation. C'est pas aussi évident que ça.
La vraie question, c'est pendant tout l'automne, Luis Enrique nous a dit on sera prêt en février. Honnêtement, quand on a vu le PSG en février, on s'est dit bon, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'automne. Et après aujourd'hui, il faudrait croire qu'en avril ça sera mieux qu'en février. Moi, j'en suis pas certain. Je trouve que il n'y a pas de règle en Ligue des Champions. Vous pouvez y arriver l'année où vous avez l'impression que vous êtes le moins bien équipé. C'est le syndrome Chelsea en 2012 qui bat le Bayern en finale. Avec Roberto Di Matteo, et il manquait la moitié des titulaires en finale et ça passe quand même. Donc il n'y a pas de règle. Mais malgré tout, pour ce qui concerne la construction d'une force, je suis un peu circonspect. Et je continue de penser qu'ils concèdent beaucoup trop d'occasions, beaucoup trop de situations, beaucoup trop de tirs. Et qu'une grande équipe... Regardez comment City a enfin réussi la quête de Guardiola la saison dernière. Les quatre défenseurs, c'était quatre défenseurs centraux. Ce n'était pas tout à fait l'esprit du jeu de Guardiola.
Non.
Mais c'est comme ça qu'il a gagné la Ligue des Champions.
Non, mais ce qui est vrai, pour aller dans le sens de Vincent, c'est qu'il joue à peu près n'importe quelle équipe, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, parce qu'on l'a vu avec la Real Sociedad, ils sont en difficulté sur les phases de transition rapide. Quand ça va vite, et c'est pour ça que moi je suis un peu inquiet, pour tout vous dire, contre Barcelone, pour les avoir vus contre Naples. Alors, c'est vrai que c'est un peu une équipe miroir aussi, parce qu'eux, ils ont des défauts derrière, ils peuvent aller vite devant, mais ils ont, je trouve, les caractéristiques pour ennuyer les Parisiens, justement, dans ces phases de transition, voire de contre, qui peuvent faire mal à Paris. Alors, Paris, on connaît ses forces. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu la sensation d'une équipe qui était ultra solide, même en Ligue 1. Mais il y a une telle différence de niveau entre les équipes de Ligue 1 et de Paris, à un moment, ça ne se voit pas.
La meuf l'a bien avec mes stats, moi. Paris en tête de la Ligue 1, Paris en finale de la Coupe de France, Paris déjà vainqueur d'un trophée, 27 matchs sans défaite. Plus je vous écoute, plus j'ai le moral en mer. Pour vous, Pierre Lescure,
quel regard vous portez peut-être sur cette saison? Quel regard vous portez sur peut-être le nouveau personnage fort qui traverse le Parisien? C'est l'entraîneur, c'est Luis Enrique. Quel regard sur, voilà, sur cette saison?
Je ne comprends pas toujours ce que Luis Enrique demande. Mmh. Je ne suis pas, lui qui est un attaquant d'origine, je ne suis pas épaté par ses mises en place d'attaque. Je suis pas épaté par la rapidité des transmissions que tu qu'évoquais Vincent et la manière de lancer les attaquants. Je ne suis pas impressionné par le système Luis Enrique et pas impressionné non plus par la façon dont il montre sa cette espèce de conviction intime. Je ne prends pas trop le temps de tout vous expliquer, mais vous verrez bien ce que vous allez voir.
On verra.
Et alors. Ça m'énerve.
Ça vous agace. Ok. Samedi, tiens, lors d'un insipide Paris Saint-Germain-Clermont, une banderole anti-Antero Enrique, donc l'ex-directeur sportif qui intrigue pour avoir la peau de Luis Campos, l'actuel conseiller sportif. On vous a mis la main là. Les intrigues de palais, ça c'est Paris, ça c'est le Paris Saint-Germain. On revient toujours un peu à ça, toujours des complots.
Non, j'ai eu un mot tout à l'heure, c'est à ça que je pensais.
Ouais.
Quand je parlais des circuits courts.
Oui.
On peut pas, dans un grand club, il y a forcément un organigramme un peu compliqué.
Oui.
Mais il doit être clair, il doit être lisible, aussi bien pour les joueurs que pour les journalistes, que pour l'ensemble des salariés et pour les cadres à tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans la gestion du club, l'organigramme soit clair. Depuis le départ de Jean-Claude Blanc, je ne sais pas qui est directeur général.
Vittorio Melero.
Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh. C'est ça.
Mais il a moins d'autorité
que Jean-Claude Blanc.
Que Jean-Claude Blanc, qui à la fois avait de l'autorité, de l'expérience, des résultats dans la structure du club, qui était quand même, qui fonctionnait de façon un peu plus lisible en ses débuts. En même temps, il avait pour consigne de ne pas se montrer, de ne pas faire parler de lui. Mmh. Il y avait quelque chose qui ne me semblait pas tout à fait sain. Aujourd'hui, ça ne me semble pas plus clair. Et je ne sais pas d'où vient cette banderole, qui l'a peinturlurée, qui en a fait le libellé.
On n'a quand même pas beaucoup de doutes.
On n'a pas beaucoup de doutes.
On se pose la question à qui elle profite, et puis après, on trouve la réponse en général.
Voilà. Il n'empêche que c'est pas très bien. Déjà que le président est quand même pas toujours là. Il voyage beaucoup, il a beaucoup de trucs à faire. Dans ces cas-là, faut vraiment, quand on a beaucoup de trucs à faire, faut un circuit court extrêmement clair en dessous.
Justement, vous étiez en train de parler de l'organigramme. Vincent, vous aviez une question à propos de Nasser Al-Khelaifi et de son emploi du temps chargé.
Oui, et sur Mélange des genres, en fait, c'est Canal qui est le premier, finalement, à introduire Mélange des genres dans le foot français, un petit peu, en tant que diffuseur et propriétaire de club. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint un niveau de mélange des genres avec Nasser Al-Khelaifi entre son pouvoir auprès de l'UEFA, de la FIFA, via Bein, auprès de l'OCA, l'organisme des clubs, via sa présidence, et auprès du foot français, via éventuel statut de sauveur, via les droits télé? Est-ce que là, on n'atteint pas un sommet de mélange des genres qui pose problème?
Ben, en plus, quand on a dans un tel mélange des genres, faut être dans une présence permanente. Et Nasser est quand même pas dans une présence permanente. Il a beaucoup de choses à faire, aussi bien à Doha que de temps en temps aux États-Unis. Il est toujours, je crois, président de Miramax, qui est une acquisition au cinéma du Qatar. Mmh. Ça demande du boulot, tout ça. Alors, je sais qu'il capable de s'entourer de plein de gens et de gens très compétents. Mais il y a un moment où on ne peut pas être partout sans qu'il y ait trop de flou qui, au bout d'un moment, n'est pas très artistique.
Mais est-ce que ça ne fait pas trop de pouvoir dans un seul homme?
Ah si, mais forcément.
Mmh. Vous avez eu beaucoup de casquettes dans votre carrière professionnelle. La présidence du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le truc le plus dur ou pas?
Non, franchement. Non, c'était plus pas complexe, le truc le plus dur parce que c'était clair. J'étais, comme c'était quelque chose d'un mélange des genres qui était presque incongru ou même provocateur. Mmh. Le fait que Canal, dans sa position vis-à-vis de tous ses abonnés et du football, fasse cette acquisition. Donc, je l'assumais, j'ai essayé de l'expliciter, j'ai essayé de l'éclairer, de le rendre presque normal, mais je l'assumais. En revanche, je ne me suis pas mêlé de ce qui ne me regardait pas. Et je vous trouverez pas un type de la Ligue ou de la Fédé ou de du ministère des Sports ou patron de club qui vous dira que il y avait des coups de fil officieux de l'Escure, jamais.
Ok. Pierre, c'est bientôt terminé, mais on va faire un jeu. Alors, comme il n'y avait pas eu d'Annie Croche, de duel, de super duel ce soir, l'émission, on va dire, était tournée vers son président. Enfin, un président respecté. Hein,
très respecté. Du soir. Il n'a pas mis de carton.
Il n'y a pas de carton.
Je ne savais même pas qu'on pouvait en donner.
Ah oui. Ils sont là.
Ils sont là. Ah merde.
Mais c'est trop tard.
Oui. Je ne vous ai pas expliqué, c'est vrai, mais il n'y avait pas de duel. Alors, le thème du soir, c'est « J'ai joué au Paris Saint-Germain oui. » sous l'ère Pierre Lescure à Canal+.
Ok.
On a daté 91-2002. Voilà, à peu près pour les joueurs qui vont être sélectionnés. Je vais vous donner des définitions. À chaque fois, il y a un premier indice. Si au premier indice, vous avez une idée, vous y allez. Voilà. Vous avez les deux jokers à un moment. S'il y a quelqu'un qui est un peu en avance, vous pouvez lui mettre un RTT. Pierre Vincent, tu es un peu en avance pour cette question, voilà, tu poses. Ou si vous êtes trompé sur une question, vous avez également droit à un joker. Vous revenez en jeu, mais il faut l'activer. D'accord. J'ai joué au Paris Saint-Germain. Je sais, c'est compliqué. C'est plus compliqué. J'ai joué au Paris Saint-Germain, donc, sous l'ère Pierre Lescure à Canal+, donc joueur 91-2002. Et un indice, il n'y aura pas Gérald Daou, mes petits.
Il n'a pas joué.
Je débarque au Paris Saint-Germain en même temps que Canal en 91. De qui s'agit-il? Pour 4 places.
Lama.
Comment?
Lama.
Bernard Lama, vous êtes éliminé pour cette question. Voilà. Le visage de Hervé va être mis en grec. Deuxième indice, pour 3 points sur cette question, je suis brésilien.
Valdo,
mauvaise réponse Vincent, vous êtes éliminé. Pierre, toujours pas pour 3 points?
Je suis en train de chercher, j'arrive pas à trouver.
Je suis défenseur.
Oui, bien sûr.
Ah, ouais, ouais. En 91, je suis brésilien, je suis défenseur. Dernier.
Ricardo.
Ricardo. Il a un contrat ou pas? 91, il a un contrat ou pas contrat? Merci. 2 points pour vous.
Et là, il y a Michel qui est en train de me ridiculiser.
Voilà. Il est sur Twitter, là, déjà.
Attention, deuxième joueur. Je suis dans l'actualité.
Comboiré.
Antoine Comboiré. Bonne réponse de Karine Galli. J'étais défenseur central au Paris Saint-Germain. Par la suite, j'ai entraîné le club. Dans le cœur des Parisiens, je reste le casque d'or. Attention, autre joueur à trouver. Ah, après mon départ, Pierre Lescure dira de moi que je suis la dignité incarnée.
Raïl. Non, c'est moi.
C'est Vincent.
C'est Vincent.
Non, mettre en forêt son régime, dit Vincent. Il a toutes les caméras devant. C'est Vincent. 4 points.
Mais Pierre, faut y aller, hein.
Voilà. C'était une réponse.
C'était évident, quoi.
Oh, attention, là. On est sur un four, là. Là, on est sur un joueur pas terrible. En 2001, Luis Fernandez convainc le PSG de m'acheter en me qualifiant de futur crack.
Rocky.
Romain Rocky? Non, c'est pas Romain.
Oh, c'est bourré.
Mais mon passage est un échec pour 3 points.
Mais j'aimais bien Robin Rocky.
Al-Nouji.
Comment?
Al-Nouji. Nicolas Al-Nouji.
Nicolas Al-Nouji? Vous pouvez dire Robert Schramaflu ou Jean-Pierre Dupont.
Mais... Attendez, c'est un Camerounais, international Camerounais, qui après a été prêté à Bastia. Il avait dit que ça va être un super joueur.
D'accord, non. Je suis milieu de terrain pour 2 points. Donc futur crack, c'est ce que dit Luis Fernandez, il arrive en 2001. Mon passage est un échec. Milieu de terrain. Et portugais pour 1 point.
Hugo Leal.
Hugo Leal, bonne réponse. Ah oui. D'Yvan Lemay.
Ah, surtout qu'à la Roche, je voulais le vendre, j'essayais de le vendre.
Attention pour 4 points. Je suis formé à Toulon.
Ginola.
Ah, j'aime bien quoi. Ah,
Ginola. Bah parce qu'après, vous alliez dire encore Vincent.
Non. Ginola.
Elle est terrible.
Ah, tiens. Autre joueur qui a joué sous l'ère Pierre Lescure au Paris Saint-Germain.
Pierre, il faut éliminer Karine.
Mais enfin.
Mais il a le joker.
Non, je pense que c'est plus Vincent qu'il faut éliminer.
Ok.
Je vois ça comme ça.
Bon. Terrible. Pierre n'active pas ses jokers. À mon sujet, Pierre Lescure aurait dit, on a mis le conditionnel, vu son salaire, le PSG ne le gardera pas.
Xavier Gravelaine.
Non, c'est pas Xavier.
Je réponds sérieusement.
Pierre, non, ok. J'ai joué au Paris Saint-Germain de 98 à 2002.
Anelka.
Anelka, non. Non, ce qui revient en 2000, Anelka.
De 98, hein?
98-2002. J'ai marqué des buts de légende grâce à ma frappe lourde et à mes dribbles.
JJ Okocha.
JJ Okocha, 2 points supplémentaires. Vous grappillez, hein? Vous grappillez, hein? Le dernier joueur pour la route. Il est facile, celui-là. Mes clubs. Monaco, Paris, Marseille.
Ah non. Oula.
Monaco, Paris et Marseille. Pierre.
Non.
Non, Pierre, il a pas envie, là.
Avant Zlatan, j'étais le meilleur buteur parisien en Coupe d'Europe.
Georges Weah.
Georges Weah, 3 points supplémentaires.
Non, mais vous mettez pas tous les clubs de Georges Weah.
On a une égalité, hein. Allez, encore une pour la route. On casse l'antenne. Je suis formé au Paris Saint-Germain.
Nicolas Nelka.
Nicolas Nelka, voilà.
Bravo, Karine. Bravo,
Karine. Moi, j'ai voulu rester au niveau du président.
Voilà.
Jamais le président.
Mes amis, c'est déjà terminé. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir passé 2 heures avec nous. C'était charmant, c'était bien, c'était magnifique, c'était intelligent, c'était du perlisqueur. Tout va bien.
Exagérant rien.
C'était Pierre.
C'était Pierre, quoi.
Il est bien, c'est
Olivier.
On vous embrasse. Demain, la maison est ouverte. Allez, on vous embrasse et à demain.